Salut tout le monde, bienvenue dans cet apéro spécial draft, une des plus belles périodes de l'année, en tout cas une période que moi j'adore et c'est pour ça que je suis vraiment ravi d'être avec toi Simon pour une première présentation de quelques profils.
Chaud Robin.
T'as chaud?
Ouais mais ça va, écoute. Bon, tu vois on est en short, c'est la meilleure période de l'année, on est tous les deux en short, c'est les vidéos où on est en short.
Bah ouais, là, il fait déjà 30 à Paris, ouais, ça va faire que monter.
Comme ça, en short, pas en short, c'est la période de vidéos en short. Ouais, il fait quoi là, 26-27?
Au
pas
plus,
de film dans les bus, moi j'ai souffert en venant.
Je crois qu'il fait 28-30, attention là ça va faire que monter, hein. petit message, faites de la musique.
Ouais,
vous avez vu, il va faire 35-36.
Combo canicule, faites de la musique, mauvais alcool, mauvaise musique.
C'est ça, faites gaffe quand même dans la rue, déjà faites gaffe dans les bus, hein, visiblement.
Ouais, j'ai pris le métro qui est tombé en panne pour prendre un bus, enfin bref, Paris quoi.
Paris. Mais ouais, là, il s'est passé plein de choses en NBA. Tu t'es bien remis du Titanic, là. Vous avez fait une bonne vidéo du Nervin.
Ouais, où on a quand même parlé un peu trop, peut-être des Spurs, mais quand même des Knicks, parce que le titre des Knicks restera, je pense, avec le recul, on va s'en rendre compte. Quand les clubs, c'est bête, hein, ce que je veux dire, Romain, mais il y a certains clubs comme ça, quand ils gagnent, c'est pas que ça compte double, mais il y a un truc d'imaginaire collectif. Je pense que les Bulls, quand ils regagneront, ce sera forcément voilà. Et là les Knicks, c'est pour ça que j'ai dit les Bulls quand ils regardent, les Knicks ont regagné. Nous la plupart des gens n'en avaient même pas connu le premier titre,
bien sûr,
mais ils sont revenus au sommet après la période des Wings et tout, ont réussi un truc qu'ont jamais fait les Knicks, un peu mythique. Et on les voit, enfin moi je sais pas ce que, mais la timeline là, je suis à New York quoi.
C'est
j'ai du Jimmy Fallon, j'ai du Ben Stiller qui prépare, qui tisse son docu,
les vidéos d'Alicia Keys là, dans la rue où ça chante ses chansons, c'est magnifique,
c'est le cinéma, c'est vraiment le cinéma. Je me dis encore, tiens, quelle vedette n'est pas encore agrippée au wagon X pour essayer de surfer sur la hype et se passer pour quelqu'un de cool.
C'est vrai aussi. Mais ouais. Puis les débats autour de Jalen Brunson, est-ce que c'est déjà le meilleur joueur des Knicks? Non, ça fait kiffer. Parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là.
Jalen Brunson, top 20 d'histoire, etc. On y va tout droit. Mais voilà,
calme,
on est dans
on va peut-être rester calme, mais incroyable.
Non, mais ceci dit, Brunson, il y a un héros du peuple. Voilà, quelque chose d'Enix. Même
ça
si,
restera.
Plus tu lis des trucs, plus moi, son père me paraît. Là, j'ai lu notamment Big Up. Je crois que j'ai vu la trad chez Basket Session et j'ai vu les copains de Basket Session et j'ai vu l'autre news aussi passer dans Twitter. En gros, il l'aurait forcé à jouer gaucher en fait. Brunson est droitier.
Ah ouais?
Ouais, Brunson est droitier naturel. Et en fait, comme lui est gaucher et que c'est un avantage, il l'a forcé à être gaucher. Enfin, et plus je lis sur lui, plus j'ai l'impression de dire des trucs sur le daron de Michael Jackson. Mm-hmm. T'es je veux un peu projet Mbappé quoi.
Ouais,
je fais de mon gamin, bon.
Bah,
ça a payé.
Après, tu sais, Tony Nadal, il disait la même chose par rapport à Raphaël qui était droitier à la base. Ça menait une grosse carrière aussi, paraît-il. Mais après, je sais pas si t'as vu le reportage sur Nadal, c'est pas non plus un exemple de.
Mais là, j'ai lu qu'il y a gestion. Et puis il y a plein d'inquiétudes sur Nadal là, au niveau de son état de santé. Apparemment, c'est très inquiétant sur le long terme et la vieillesse.
Bah en même temps, il s'est fait un nombre de. On n'est pas là pour parler de ça, mais son dernier Roland Garros, il le gagne avec un nombre de piqûres dans le pied qui aurait découragé quelques coureurs du Tour de France.
Il sous-entendait que. C'était
pas une attaque pour le cyclisme. Je précise justement au Tour de France, justement, il se plaignait que.
Non, cyclisme, on boit de l'eau.
Non, mais justement, tu sais, eux, ils ont même plus le droit de se faire des,
ouais.
des piqûres de trucs à peu près. Enfin, il n'y a rien de légal, quoi. Donc au tennis, ce serait impossible. Mais on n'est pas là pour parler de
non,
ça.
Non, on est là pour parler de football. Il a eu l'équipe de France. Bah non, mais tant qu'on parle, on voit qu'on boulette pas. On espère que vous allez bien, que vous vous hydratez, que chez vous, c'est pas des. On appelle ça des îlots de température, je sais plus comment on dit ça.
Là, tu
c'est
des
appartements
où
la chaleur, voilà. Parce que c'est hyper
qui a un bon DPE.
Et au pire, si vous faites des insomnies, vous pouvez mater des trucs genre Argentine-Algérie à 3 du mat.
Ça régale. Hier, je travaillais cette vidéo devant Norvège-Irak. Il y a des phrases, il y a des phrases exceptionnelles.
Non, mais les bleus, on verra. Peut-être que si ça se trouve, si on a resté jusqu'en fin de vidéo,
il y aura peut-être une petite surprise si
on
a le temps.
On digressera en mode trash foot.
Mais on est là pour parler des profils de draft. Cette vidéo, comment on l'a construite? D'abord, on va parler du top 4 parce que, déjà en général, tu le disais, les drafts sont très régis. On le voit notamment avec le système de loterie actuel qui a eu lieu pour la dernière fois autour de ce top 4 et cette saison. Et il y a vraiment dans
c'est
les mocks.
Top 4.
Ouais, dans les mocks, il y a vraiment un top 4 qui se dégage. Donc, on va vous faire un petit peu les présentations un peu plus complètes, parler un peu plus de ces joueurs, ce qu'on en pense, peut-être leur comparaison, dans quel ordre ils partiront dans une semaine, dans moins d'une semaine,
en
mardi
plus,
prochain.
A priori, Robin, le dernier sera chez toi, dans le sens où Chicago a le pick 4. Donc, t'es
c'est
censé
ça.
Avoir. Toi, en fait, t'es bien, t'es censé regarder ce qui se passe et prendre le dernier du top 4.
On n'a pas à travailler, nous.
Ouais,
nous
c'est...
Limite, on pourrait pas
avec
organiser
ton
de workout.
T'es content?
Nouveau coach, Yago Slipiter. Ouais, moi, je suis content sur le papier.
C'est bien Splitter.
Oui, c'est ça. Bah là, il a eu deux projets entre Paris Basket et Portland où il a pas pu mettre vraiment ces choses. Enfin, à lui son plan de jeu, il a dû s'adapter à un entraîneur qui part
un
petit peu précipitamment.
La suite de quelque chose.
Mais à chaque fois, il a mis une bonne capacité d'adaptation. Il a porté ses groupes à faire des belles saisons. Il y a ces jeunes qui se développent. L'année dernière, Portland finit en étant top 8 défense, je crois, sur les 50 derniers matchs. Il y a des trucs intéressants. Mais du coup, je vous disais, pardon, le top 4.
J'arrête de t'interrompre.
Aucun souci, j'adore ça. Et derrière, on va vous présenter nos petits chouchous. On en a environ 3 chacun, plus en bullet point, en rapidité, des gars à surveiller à
ouais,
d'autres échelles de la draft.
Ouais, quand même, on a tous... C'est à, ce petit jeu, on a tous des chouchous, je pense,
c'est
un
ça.
Peu avant la draft. Et puis,
puis on a bien bossé aussi.
Oh, puis moi, j'avoue que j'ai un prisme. Les Kings draftant en 7, c'est plutôt. En général, de toute façon, les Kings sont dans la loterie. Donc, je connais plutôt bien les prospects parce que je pars souvent des Kings et de. Parlons un peu de la méthode. Comment tu bosses ? Moi, j'avoue que déjà, il y a soit qui draft quand avec les Kings et 2-3 autres équipes. Si les Nets ont un pic haut, ça peut être un point d'entrée pour moi pour regarder parce que c'est une équipe que je regarde un peu plus près. Après, moi, j'avoue que dans la méthode, je regarde pas trop d'NCA en cours. Je m'y mets sur la fin de la Match Madness,
ouais.
Où je vais choper du live Beansport, on transmet des matchs, des trucs comme ça. Par contre, une fois qu'on arrive à 10-15 jours de la loterie, je dirais, je suis à donf. Et je mange des mock drafts, des profils, des vidéos, des articles. Les profils, bah, évidemment, qu'on fait, on va vous montrer sur Trash Talk et tout. Mais aussi, tu as des sites, tu as de la vraie geekerie.
Oui, bien sûr.
Tu as de l'ingénierie, même, je dirais, de envergure à. Où est mon ordinateur ? J'en ai trouvé
plein.
Un.
Florence Sailing, ils sont excellents.
Ouais. Cette année, j'en ai trouvé un petit nouveau qui mettait des highlights. Alors, méthode, tadada, les sources. Grindingtape.com,
ouais.
Je connaissais pas. Les fameux big boards, les profils de draft,
les highlights, les lowlights aussi.
Ouais, The
Ringer, les joueurs font
qui
moins
fait
bien.
Des gros portraits aussi assez approfondis. Et j'adore ça.
Bah, je suis comme toi en fait, en étant à l'année à la rédaction de Trash Talk, vous avez tous vu les playoffs à quel point c'est intense. On n'a pas forcément le temps d'en faire énormément et c'est pour ça qu'il faut aussi faire un shout-out, tu disais, aux gens plus spécialisés qui font de la NCAA à l'année. Moi, j'ai aussi demandé des conseils à des gens en préparant cette vidéo, mais j'ai regardé beaucoup d'highlights, beaucoup de lowlights. J'ai lu un nombre d'articles assez incroyables en croisant les sources.
J'aime bien le concept
des lowlights. Ouais, ils mettent aussi dans ces articles parfois beaucoup de highlights, mais justement dédiés à ce dont ils sont en train de parler. Tu vois,
oui,
il parle
oui,
de sa capacité
sûr.
Pick and roll et tu vois un petit peu toutes les actions de la
saison.
Ouais,
c'est ça,
très
moi j'aime bien les vidéos là par séquence de points forts, points faibles. Et dans les points forts, il y a par exemple manipulation des défenses, machin, pick and roll. Après, tu vas avoir une séquence sur par exemple le shoot, les différents types de shoot, mi-distance, etc. Et tout.
Des bouts de match si on peut. Mais du coup, il y a aussi d'autres spécialistes. N'hésitez pas à aller voir Envergure, etc. Ils regardent plus de NCAA à l'année que nous. Faut pas, on n'a aucune note à lire forcément. Mais
j'espère qu'ils se prétendent spécialistes parce que moi j'avoue que je tourne à 10 matchs max.
Mais ouais, on a bien bossé en amont quand même de cette vidéo et donc on va essayer d'être très complet. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence directement avec celui qui est quand même le plus annoncé pour partir en premier choix.
J'allais dire, enfin, l'habitude.
Oui. Il était à ma
place. Bastien était là. D'ailleurs, pour ta gouverne, moi j'étais là en fait.
Ah ouais ?
Ouais, j'étais là.
Ah, t'étais présent.
J'étais dans le hors champ, mais j'étais là.
Et JD Bansa.
J'étais avec le papa, notamment avec son équipe et tout. Ouais, JD Bansa. Bon, ok. Là, on en parle comme le numéro 1. On commence par lui parce qu'on en parle comme le numéro 1.
C'est ça.
Même si il y a un peu de discussion, on va te donner tout de suite le nom du deuxième joueur qui est Darin Peterson. Qui lui, en gros. Essaye de forcer Washington à le prendre, enfin on sait pas, mais ne ferait pas d'essai avec d'autres équipes. Bref.
C'est ça, il y a déjà les deux ont déjà sorti des rumeurs dans la presse de leur entourage qui sont très confiants qu'ils vont être le premier choix. Après, quand on regarde la plupart des mocks, et il y a quand même beaucoup de raisons qui tendent vers ce AJ Dibensa en premier choix. Merci à lui d'être venu quand même sur le canapé pour l'interview. Et du coup, pour le présenter, c'est un gars quand même qui est né dans le Massachusetts du côté de Boston qui. Ouais. Il a grandi une bonne partie de sa vie avec son père qui a beaucoup baroudé. S'il est
oui,
aussi
on rappelle son
France.
Père, il y a départ, Grigny au départ, mais qui est parti vivre aux États-Unis, etc. AJ, c'est un profil hyper alléchant. On va rentrer tout de suite sur le gros point fort de joueur et tout. C'est en fait d'être un scoreur complet, on va dire un ailier, swingman, ailier, etc. Mais de faire 2m6, 2m5, 2m6, pour l'avoir vu en vrai, etc. Et tout, c'est un grand poste 3. Et là-dessus, tout de suite, les références, on va dire assez absolues, actuelles, c'est Jason Tatum.
Oui.
Alors, grand bien lui fasse et s'il ressemble à. Mais voilà, mais c'est le spectre de joueur.
Oui. Il y a aussi. En fait, c'est marrant, ils disent un peu Jalen Brown, Jason Tatum, parce que par rapport à Tatum, on va y revenir, c'est beaucoup plus. Un attaqueur
un
de cercle. En fait,
ça pourrait être un mix des deux.
Pour l'instant, il n'a pas encore. On va en reparler plus tard.
Il
n'a
pas la
shoot extérieur.
Il n'a pas la distance de Tatum.
Du niveau de Tatum, mais c'est vraiment un driver exceptionnel, justement pour
l'instant.
Ouais,
mais je trouve qu'il est plus proche de Tatum que Brand quand même, moi, dans le. Ouais.
Bah, lui-même l'a dit, la référence qui lui parle le plus, c'est Tracy McGrady.
Voilà. Et après, je trouve encore plus. C'est T-Mac, qui est un peu le Tatum avant Tatum, mais cette espèce de mec trop grand pour être arrière et qui, en fait, va être déplacé sur le poste 3, mais qui est très complet. Et qui est devenu, bon, T-Mac au départ, c'était pas censé, parce qu'il venait du lycée, mais qui est devenu bah, qui est meilleur scoreur de la ligue et qui est à un moment référence offensive. AJ DiBanza a tout sur le papier, plus on va dire la trajectoire, plus l'encadrement, plus la volonté, plus le drive. Il dégage vraiment, quand on voit, il a une facilité pour jouer au basket, c'est assez fascinant. De face, un ou deux dribbles, des bons appuis, tac, un petit shoot, plein de variétés. De même type de shoot, je trouve. Il y a déjà un peu, bon, il y a du mi-distance classique, jump shoot, mais tu vois, dans un peu slasher, un peu d'attaque de cercle, des push shots, des choses vers l'avant, etc. Et tout, très dur à défendre.
En fait, ce qui parle le plus, c'est que malgré un shoot extérieur où je crois il a tourné vers les 34% maximum cette année à 3 points, c'est le meilleur score de toute la NCAA en tant que freshman. Ouais. Et d'assez loin, hein, il est à plus de 25 points de moyenne, sachant que le deuxième doit être dans les 23. D'ailleurs, je crois qu'on va en reparler plus tard. Mais c'est vraiment un score exceptionnel. C'est marrant, il a une proprioception bien à lui, j'ai envie de dire, parce que dans les drives, parfois, t'as l'impression qu'il se casse un peu la figure, mais il arrive quand même à maintenir un très bon équilibre pour être très adroit en finition. C'est super excitant. Ce qui est aussi excitant, c'est qu'il monte des flashs dans le playmaking pour les autres. C'est un passeur
qui a l'air... Il y a une base de travail sur... Disons que c'est pas un trou noir, c'est pas un bouffeur de ballon.
Ce que je veux dire, par rapport à son jeu,
De shoot, elle est pas parfaite. Par contre, la volonté de jouer avec les autres et de pas s'isoler, elle est réelle.
C'est ça, par rapport à son jeu, on pourrait penser qu'il a des œillères. On a vu beaucoup d'ailiers comme ça au fil des années. C'est pas le cas.
Non, mais c'est vraiment... C'est ça, tu te dis bien. C'est l'ailier moderne scoreur. Élite sur le papier, quoi.
Ouais.
A priori, il y a tout pour être ton ailier scoreur, option numéro 1 d'une équipe très compétitive. Et en plus, en défense, bah, il y a tout ce qu'il faut pour a priori être correct, même si c'était pas ce qu'on lui demandait en priorité, et même si il est jeune. Et on le voit par exemple sur la balle, c'est mieux qu'en dehors de la balle où on parle des fois de sautes de concentration ou des oublis tout simplement. Mais par contre, son physique lui permet a priori de défendre des 2-3-4 en NBA sur le papier. Non, mais cas, les outils sont là.
En fait, tu l'as dit, c'est ça, c'est vraiment les outils, parce qu'en termes de motivation, c'était pas beau quand même cette année. Il y a beaucoup de reproches qui lui sont faits par rapport à son gabarit qui est génial. Je vais vous le mettre.
En plus, pour son âge, il est déjà costaud.
C'est ça, 2m6, 98 kilos, 2m14. Ah. Là, vous voyez, sur Trash Talk, on fait des profils de draft en entier qui sont assez chargés. Donc, on vous invite évidemment à aller voir ça.
Bien sûr.
Oui, en défense, là, ce qui lui est beaucoup reproché notamment, c'est son pourcentage entre guillemets de style et de bloc. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Ce qui montre un peu un manque de. Parfois d'investissement, c'est-à-dire qu'il fait très peu d'interceptions, très peu de comptes pour un mec qui a ses dispositions. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, et ce qui ne marchera pas du tout en NBA, c'est que sur les fameuses low light, le nombre de fois où il drop, c'est-à-dire qu'il passe derrière les écrans, il laisse ses adversaires shooter, bah ça en NCAA, les joueurs que tu peux laisser shooter comme ça.
Il y a un côté zone de confort et facilité en défense, mais c'est aussi sans doute. Le rôle dans lequel pour l'instant on le faisait pas travailler, j'ai l'impression, plus que ça, l'idée de stopper la balle adverse. Il était aussi en général, c'est pas un joueur qu'on envoyait en mission défensive sur le gros scoreur adverse, etc. C'était plutôt un joueur c'est pas du tout ce qui a été travaillé en tout cas à BYU. Et a priori c'est pas comme ça qu'il s'annonce en NBA. Ce n'est pas un joueur dont on va vanter les qualités défensives de toute façon.
Non, ça,
c'est plus un profil où on va dire il va être normalement exceptionnel offensivement assez vite, on devrait le voir. Et l'idée est qu'il sera dès le départ normalement pas trop médiocre offensivement, c'est déjà ça.
Défensivement, du coup.
Défensivement, oui.
Pas trop médiocre, ouais. Bah, faut quand même qu'il le prouve en termes de concentration. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il a les outils. C'est ça, pour le résumer très facilement, déjà un driver hors du commun, déjà un très bon mi-distance. Les petits doutes pour l'instant, c'est autour de sa défense et de son 3 points, ce qui sont quand même des choses très importantes, notamment pour un ailier dans la NBA moderne. Donc, c'est pas non plus pour ça que. S'il avait un peu plus montré en défense et un peu plus rentré ses 3 points, ce serait le numéro 1 évident. Là, il y a des débats parce qu'il y a des choses où on voit qu'il a le potentiel d'être très fort, mais qui sont essentielles à son poste dans l'NBA actuelle et qu'il n'a pas non plus check 14
fois. Non, mais il n'y a pas de vrai red flag. C'est-à-dire qu'en défense, a priori, il y a tout ce qu'il faut et ce sera une question d'envie, de rôle. Et encore, s'il est option numéro 1, bon, on verra. Si par exemple il est à Washington et tout, il devra se coltiner des missions défensives, mais elles seront plus pour Bilal, par exemple. Ouais. Des joueurs comme ça. Et sur le 3 points, moi, on dit souvent de regarder la mécanique de tir. Et il y a des choses. Au lancer, c'est très correct.
Oui.
J'ai pas la stat là exacte et tout, mais je l'avais.
Je peux aller chercher si tu veux.
Ouais, parce qu'il me semble qu'au lancer, pour un ailier, on est dans les standards. Je crois qu'il est à peu près 80%, il me semble.
J'y vais de ce pas.
Un peu moins quand même. Mais...
77%. 4, tu vois. 33% à 3 points, dans ce que je vous disais plutôt.
C'est plutôt un bon indicateur. Et surtout quand tu le vois jouer, notamment en match, là où on l'a vu encore là dans. Dans le tournoi NCAA, bon, BYU perd assez tôt et tout, mais lui met des 30 points. C'est par exemple les fameux, tu sais, un écran, je le prends pas, puis en fait un dribble, pull-up, deux dribbles, pull-up, un dribble, un écart et zip pull up. Et ça, la mécanique de shoot, elle est vraiment, fluide. Il y a une poche a priori sur la main de dribble. Donc quand il fait du droit droite, c'est un droitier. Hein. Mm-hmm. Quand il fait du droit droite, c'est assez droit. Et il a la taille qui lui permet de se protéger un peu. Et vraiment, par contre, quand c'est de l'autre côté qui rabat sur la, là, on retrouve vraiment un shoot fluide. Tu vois, ça tombe un peu comme les Tetum, comme les Magradi, de vraiment avancer, revenir sur son shoot un peu comme ça. Et là, honnêtement, rien que sur ce truc-là, t'as l'impression que c'est un mec qui peut tout de suite, hein, dès l'an prochain et tout, mettre des points NBA.
Ouais.
Sur ce truc-là.
Il est très fort pour créer très rapidement de la séparation. Et à partir du moment où il l'a, c'est très fort.
Il est grand pour un 3, un grand long bras. Il est même pour la NBA, c'est un athlète assez exceptionnel.
Ce qui peut faire une transition vers son successeur, on va dire, ouais, c'est que par contre, dans la mécanique de shoot, quand il est très bien défendu et que c'est des shoots compliqués, il a quand même tendance un peu à la changer, à la bouger, et du coup à pas trouver forcément d'efficacité dans les tirs très compliqués.
Bah, t'es quand même sur un ailier extérieur. C'est vrai que c'est pas suprême à la Ray Allen ou des choses comme ça, ou à la Kobe, ou voilà. Pourquoi je cite ces noms-là ? C'est pour mieux te filer le bébé avec ces comparaisons.
C'est un peu la spécialité de ce monsieur-là, Darin Peterson.
Toi, t'aimes beaucoup, non ?
Moi, je suis fan. Moi, je suis complètement fan. Il y a beaucoup de red flags, en fait. C'est l'inverse. Il y a beaucoup de red flags.
C'est vrai que c'est deux profils assez pas opposés, mais très différents.
C'est un joueur pour l'amour du risque. C'est un joueur pour ceux qui ont pas peur de plonger dans la Seine alors qu'il fait 38 degrés ce dimanche. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr. Il y a un côté, tu l'as dit, ranger du risque. Peterson, qui était longtemps vu comme le vrai numéro 1.
Toute sa vie, j'ai envie de dire. À 13 ans, il avait des offres universitaires jusqu'à l'année dernière.
Des soucis, bah, lui, il a justifié surcharge, je sais plus. Trop de créatine.
C'est ça, en fait, il a eu beaucoup de problèmes de crampes. Il a joué que 24 ou 25 matchs. Je l'ai juste ici saison.
Ça, tu mets les
24
joueurs,
matchs.
Beaucoup d'absence.
Ça, beaucoup d'absence. Beaucoup de problèmes de crampes déjà. Donc, il a dit en effet que son université le poussait. Enfin, est-ce que font beaucoup de jeunes joueurs à prendre de la créatine. Sauf qu'ils se sont découverts que lui en produisait déjà naturellement beaucoup. Il y avait un surplus. Et ça menait à beaucoup de crampes apparemment. Il y a aussi des petits bobos aux ischios, à la cheville, une grippe juste avant des matchs les plus importants de la saison contre Arizona. Il a joué que 24 matchs. En plus, il joue que 29 minutes par match, ce qui est très peu par rapport aux autres.
L'échantillon est faible sur une année complète, on l'a peu vu.
Tout ça combiné, là je revois tous les red flags d'un coup. Il s'est déjà décrit lui-même comme un petit peu un solitaire antisocial pour un fan de Kobe.
Il y a une personnalité qui n'est pas la plus, on va dire... la préférée des scouts sur le papier, parce qu'effectivement il y a un petit côté, moi j'ai lu ça d'autres, on le qualifie d'un peu un peu starlette, pas diva non plus, tu vois, c'est pas Maria Carré, mais voilà. Et puis notamment ça a été confirmé par le fait que là il fait, alors est-ce que c'est un bluff pour essayer de glisser la draft, de raconter n'importe quoi sur la créatine, de dire je veux aller que à Washington et tout, parce qu'en fait il espère glisser et il veut aller aux Kings, peut-être que c'est ça son plan. Mais non, je pense pas. Je pense que là, vu les équipes, parce que ça, tu vois, en 1, 2, 3, 4, 5 et tout, pourquoi il ferait. Je sais pas. Je sais pas à quoi il joue, Darin Peterson.
Ouais, peut-être qu'il préfère être à Memphis en 3 ou à Chicago en 4, j'en sais rien. Ouais. Ou alors il veut vraiment être à Washington en 1. Parce
on dit ça parce
que
Curry l'a annoncé en 2 à Utah.
C'est ça. Mais une fois que tout ça s'est dit.
Oui, par contre, on commence par le négatif. Mais parce que quel joueur ? C'est-à-dire que malgré tout ça, il peut. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, si ça se trouve, Washington va créer la surprise, entre guillemets, hein, et prendre Peterson comme ça s'était annoncé il y a 3 mois, en fait.
C'est ça, moi, ça me choquerait pas. Oui, il y a encore 3 mois, il y a un match d'Ibanza contre Peterson qui était très attendu. C'est Peterson qui l'a mangé sur le match.
On va dire qu'en termes de. Donc c'est quoi un arrière score, hein. Vraiment là c'est la définition même de l'arrière shooter, hein. Il fait quoi, 1m14-15,
je dirais. Il y a un minimum sur Red Flag, en effet c'est un arrière scoreur qui lui a dit qu'il se voyait comme un meneur de jeu. Toujours.
Ouais, mais ça j'avoue que je vois pas le meneur de jeu en lui, mais
moi non plus.
Il peut porter la balle, c'est pas le problème, mais ce n'est pas un meneur de jeu.
Mais oui,
c'est comme Devin Booker par exemple, je peux jouer meneur mais n'est pas un meneur de jeu.
D'ailleurs c'est la comparaison qui revient le plus souvent entre les
deux.
Ouais,
moi je trouve qu'il y a pas mal du Bradley Beal
Beaucoup de Bradley Beal.
Ouais, bah le Bradley Beal qui est top 3 de draft.
Qui est pris à Washington,
qui assez vite se montre un scoreur complet. Parce que il y a une espèce de compromis entre la qualité de dribble, la qualité de shoot et la qualité de jeu balle en main off ball qui fait penser, et du coup qui pour certains convoque même Kobe Bryant ou des choses comme ça. Ça fait penser à du jeune Ray Allen aussi.
C'est
avant
ça.
Que ce soit un spécialiste à 3 points uniquement, mais qui avait du slash aussi. Mais vraiment sur le papier, c'est peut-être combo guard s'il veut, s'il écoute cette vidéo et qui gna gna gna, je peux jouer meneur. Mais c'est l'arrière américain peut-être le plus excitant depuis Anthony Edwards, en fait. Tu vois des trucs comme ça, quoi.
Bah c'est ça. En fait, il est à son rythme. C'est pour ça qu'il est très comparé justement avec Booker, Bill et tout. C'est pas forcément le plus explosif, même si
c'est
ça va.
Booker
de ouf,
sur la façon de jouer, c'est assez similaire. Ouais.
Mais par contre, en fait, c'est pour résumer en une phrase, n'importe quel shoot, il peut le mettre. C'est aussi simple que ça. Il a une distance monstrueuse. Il met des step back. Enfin, là, on l'a dit, il a joué que 29 minutes par match.
Il est hyper physique. Je sais pas comment dire. Ouais. Il est lent, mais il est hyper physique. C'est-à-dire que les appuis sont très bien marqués.
29 minutes
par match. Il a pas besoin de beaucoup de choses pour se créer une séparation. Il a pas besoin de beaucoup de choses pour passer un défenseur. Tu lui mets un mec à peu près de son gabarit. En fait, il est très puissant, Peterson. Il dégage une force, moi, je trouve, pour un mec de son âge et tout. Tu mets un mec trop grand, trop malin. Bah, c'est fini. Il s'écarte un peu. Il prend de l'espace. Et surtout, tu disais, il met des shoots compliqués. Et puis, alors, les shoots simples, il y a un truc visuel qui est assez facile.
Ça rentre. C'est...
Ouais, puis ça touche rien. Enfin, il y a vraiment un côté ficelle sur les trucs, vraiment, quoi.
Ouais, je crois qu'il est à 44% à 3 points en catch and shoot sur les rares paniers où il est pas très défendu. Parce que c'est ça. Sur les 29 minutes où il joue, Kansas, il n'y avait pas non plus un nombre de dangers offensifs extraordinaires à côté de lui. Il était très bien défendu. Et pourtant, il tourne à 20 points, à 44% au tir, à 38% à 3 points. Alors que, franchement, vous voyez, les shoots qu'il doit prendre, c'est pas simple. En termes de scoring, il n'y a aucun doute, en fait. Ça va être, c'est ça, 20 points en se réveillant le matin, sans aucun souci.
Il a quelque chose de ces joueurs inarrêtables où, tu sais, on dit bonne défense, encore meilleure attaque. T'as l'impression que Peterson, ça va être ça toute sa carrière.
C'est-à-dire
que même défendu par les meilleurs, le mec a un talent supérieur pour mettre la balle dedans. Vraiment,
ça, c'est à revenir sur d'autres profils qu'on va présenter. En fait, athlétiquement, il est pas, comme il n'est pas élite, on se dit est-ce qu'il crée toujours la séparation, mais il n'en a pas toujours besoin. Quoi. Il met tout, et puis il drive peut-être pas assez, mais c'était. Surtout à Kansas, je veux dire, les années d'avant, il y a vraiment des mixtapes au lycée, allez voir ces mixtapes du lycée où tu sens qu'il est plus en forme physiquement, tout simplement. Il dunk sur n'importe qui, il a des finitions, les up qui sont exceptionnelles. On l'a moins vu à Kansas, mais je pense qu'il en est capable dans un environnement NBA. Tu parlais d'Anthony Edwards, quand il arrive à la draft, Anthony Edwards, sa saison NCAA, on entend la même chose, même si c'est pas les mêmes joueurs. Mais est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il est fan de basket, etc. Je pense que Peterson.
Anthony Edwards est quand même, même si au lycée tu le disais, il tapait du dunk. Anthony Edwards était quand même encore plus vertical.
Ah oui, j'ai dit c'est pas le même joueur, il est plus athlétique.
Mais voilà, en termes
dans le côté motivationnel, où moi j'ai pas trop de doute sur le fait qu'une fois en NBA ça va.
Et
cliquer.
Quand même, moi je trouve qu'il fait penser à quelqu'un. Alors c'est là où le côté combo, je le comprends selon comment une équipe joue. Il y a un petit, tu sais, si on joue au jeu de, moi je dirais que c'est 60% Booker, tu mets d'autres joueurs, c'est un jack comme ça des trucs. Il y a un peu d'SJ quand même.
Ouais.
Je trouve.
Ouais.
Dans ce fait de jouer lentement, de très bien maîtriser et d'être assez épuré dans le genre de comprendre tout de suite, en fait, de comment dire, mais un peu comme un joueur comme Jalen Brunson. Et d'ailleurs, c'est ce que disait, là j'écoutais le podcast de Nash et Brand sur Brunson, très intéressant. Par exemple, Peterson, on peut imaginer que dans le porteur de balle, je passe un premier défenseur, je le garde dans le dos, devant moi il y a un 4 contre 3, et en fait cet espace devant moi, je mets au défi de la défense, bah si vous montez, là je vais faire la bonne passe parce que c'est pas dans le trafic. Dans le trafic, tout ça, le côté vraiment de jeu, ça je le vois pas. Mais par contre, lire des situations se créer une situation favorable et prendre la bonne décision derrière comme un porteur de balle principal, tout à fait. Et surtout, si l'option qu'il prend Peterson, c'est le shoot, c'est dégager, s'il y a un peu de drop, tout ça et tout facile. T'as l'impression que ça, ad vitam aeternam, il peut ça spammer déjà tout de suite, je pense, dès l'an prochain, des séquences de jeu où 4, 5, 6 fois de suite, ça peut être très intéressant de voir ce qu'il a dans le ventre.
C'est intéressant que tu parles de quand ça se finit en shoot, parce que justement, ce qui lui manque pour l'instant par rapport à ces mecs-là, pareil, il le montrait au lycée, mais il a fait une mauvaise saison en playmaking à Kansas. C'est aussi l'attaque de son coach qui était destinée comme ça, et pareil, je pense que là, il a tourné quoi, 1,6 passes de moyenne cette saison avec pas mal de pertes de balles. Je pense que ce sera pas la même chose en NBA. Peut-être que je le projette trop bien parce que j'adore le joueur aussi, hein, faut le reconnaître. Mais pour rejoindre ces noms-là, il doit encore améliorer son playmaking, surtout s'il veut jouer meneur de jeu, ou alors retrouver les standards du lycée, mais où c'était plus simple forcément que face à des défenseurs NBA. On parlait défensivement. Défensivement, ça va quand il a la motivation, il a les outils, il se fait.
Moi, je trouve qu'il a du coffre. C'est-à-dire qu'il encaisse le choc, il y a tous les. Il me surprend, moi, par sa puissance.
Ouais.
Pour un joueur de son âge et tout. Je le trouve vraiment.
Limite par rapport à Dibonsa, il a presque autant montré, voire plus, alors qu'il a moins les outils à la base, forcément. Et puis peut-être sur le poste d'arrière, en NBA, c'est un petit peu moins. Enfin, on voit des arrières qui brillent sans trop défendre, comme Mitchell, etc.
Il risque de se faire moins exposer que Dibonsa au début.
Exactement, c'est ça que je veux dire. Tu l'as beaucoup mieux résumé que moi. Mais en tout cas, deux prospects très intéressants. Et ce qui est fou dans cette draft, c'est qu'on a un gars qui est considéré peut-être comme le meilleur freshman depuis une décennie limite en NCAA et qui a attendu qu'en troisième pour l'instant, c'est Cameron Boozer. Fils de Carlos,
qu'on rappelle, Carlos Boozer, ancien joueur des Bulls et des Jazz et des Cavs, et actuellement dans le staff des Jazz.
Ouais, du Jazz.
Clin d'œil.
Ouais. Attends, ils ont quel choix, le Jazz?
Clin d'œil. Non, puis c'est pas comme si les trucs père-fils, là, c'était pas à la mode depuis une semaine. Hein. Alors, par contre, le père Boozer, donc Carlos, n'a pas forcé Cameron, son fils, à changer de main.
Non.
À devenir gaucher. Mais il lui a, à mon avis, donné pas mal de petits tuyaux. Parce que pour un joueur de cet âge, donc freshman, c'est 20 ans, je crois, Boozer, là.
Ouais, ou 20. Non, je crois même 10. Encore 19. Je crois qu'il a 18, ouais, 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 même.
Enfin, c'est un, voilà.
Il me semble que c'est un des plus jeunes de la draft et qu'il a encore 18 ans. Peut-être des bêtises. Ouais, je l'ai pas sur cette page. J'arrive.
Non, mais ouais. Bah, ce qui est assez exceptionnel, dès qu'on le voit jouer, hein, c'est la maîtrise.
18. Il aura 19 ans le 18 ouais, juillet.
Ouais, ok. C'est la maîtrise. Je dirais même la rigueur dans son jeu, même le professionnalisme, la maturité, le QI basket, et presque un truc qu'il est censé pas avoir, mais l'expérience.
Exactement.
Il est arrivé en NCAA, enfin il est arrivé, il évoluait en NCAA avec un degré où tu te disais, si tu connais rien et que tu regardes le visage, tu dis ouais mais lui en fait, qu'est-ce que tu sais, c'est le, t'arrives en troisième et il y a un mec que tu regardes comme ça, tu fais ouais mais toi ça fait trois ans que t'es là, tu squattes en fait, et pas du tout.
Exactement. Il y a une phrase qui m'a marqué dans un des articles que j'ai lu et qui dit. Je pense pas avoir déjà vu un joueur qui connaît aussi bien ses défauts et sait les contourner et qui connaît aussi bien ses forces et sait appuyer ouais. dessus à 18 ans.
Donc, point fort, point faible, point fort, QI basket exceptionnel. QI basket. On va dire aussi simplement.
Incroyable.
Ça. Vraiment.
Incroyable.
Au point où même, je trouve que par rapport à des joueurs NBA, tu le vois, tu dis mais oui mon pote, mais vas-y, va aller montrer tout ça en NBA. En plus moderne, c'est-à-dire qu'il y a, il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est un vrai poste 4, ce qui est bizarre ouais. parce qu'on n'existe pas tant que ça. Un vrai poste 4. Il fait penser à, on va y venir sur les comparaisons. Mais pourquoi cette polyvalence du poste 4, gros rebondeur, très bon passeur, très bon au poste haut, capable au poste A, capable au poste bas. Par contre, même, il est exceptionnel au poste haut, poste bas, il va scorer tout ça, mais rebond offensif.
Ouais.
Tire à 3 points
39%.
Éventuellement même un peu parce que ça je trouve qu'il y a des gens qui en font beaucoup, mais un peu de possibilité de se déplacer avec la balle
ouais.
voire même de saisir non mais tu peux imaginer un pick and roll inversé et puis en fait
oui,
voilà,
ça, ouais, il va pas être ridicule.
Non, un peu entre guillemets, et je dis pas ça parce que c'est les Kings, mais un peu à la Sabonis par exemple, tu vois, sur des mains à main, sur des poses d'écran, voilà, de la création, c'est ça que je cherchais. Il peut créer un peu du jeu,
ouais, et puis
mais pas par le dribble
aussi.
Pur en crossant et on n'aime pas du tout, mais en étant malin sur les angles, sur je pose un écran, je me retourne, mon meneur vient, je lui mets de l'autre côté, en fait tu vois, on voit des petits trucs comme ça que moi j'adore, ouais. J'adore. Très bon, je le redis, mais en plus bon défenseur. Ouais. Volontaire, intelligent. Et puis je trouve qu'on parle beaucoup de tout ça, donc on le dit, hein, vision de jeu, en plus beau bébé, même si en NCAA il domine un peu physiquement, ça faudra qu'il fasse gaffe parce que l'avantage qu'il a physique en NCAA il l'aura un peu moins en NBA, et encore quoi que, parce qu'il a que 19 ans en fait, et que du coup ça trouve dans 2 ans il va arriver
en fait, faut lui trouver des défauts, et c'est ce que disent les gens, c'est pas un athlète
si,
surhumain
si,
au niveau de... oui non, bien sûr, mais
ils sont maigres par rapport aux qualités.
C'est un athlète qui est, par rapport à la NCAA, qui est surhumain. Au lycée c'est encore pire. Attends, je les ai là, les stats du lycée, c'est extraordinaire. Il a fait 4 titres de suite déjà.
Et ouais, en plus, c'est mentalité, double... habitude de la gagne.
100 double-double sur 120 matchs. Enfin, à l'époque,
non, mais au rebond, il y a, un côté important. Kevin Love de Minnesota, hein. C'est un aspirateur.
Ouais. Moi, j'adore la comparaison Blake Griffin de l'année à Détroit.
Ouais, exactement, c'est la meilleure. C'est la meilleure.
T'as l'impression que c'est ça à 18 ans, c'est ça qui est dingue. Et oui, non, mais.
Et alors Ford, sinon. Alors Ford avec plus de talent, peut-être. Ouais, enfin, je sais pas comment dire, mais alors Ford des Celtics, quand ça. Ouais, c'est
déjà. Trop plus fort que Ford, moi. Mais. Enfin, potentiellement.
Sexy, ouais. Plus star, je sais pas comment dire, plus moteur offensif. Mais dans le jeu, il y a beaucoup d'Al Horford. Et sinon, moi, il y a un truc qui, dans un autre genre, mais il y a des séquences aussi où il convoque Paolo Banchero.
Ouais, bah, ouais, non, mais c'est ces mecs-là, c'est ces postes 4 solides qui sont super forts en bully ball.
Poste 4,
qui peuvent défoncer leur gars. T'as du Randle dans ce cas-là aussi.
Mais tu sais qu'il a déjà.
Des bonsoir.
Il a son temps meilleur QI basket et une compréhension du jeu déjà, peut-être même aujourd'hui, supérieure à Banchero.
Oui, bon,
on verra.
Moi, je suis très, 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 très fan aussi. Mais voilà, pour en venir du coup au défaut, c'est que justement, il y a beaucoup ce bully ball, il y a beaucoup cette domination au poste sur les autres, ces rebonds offensifs captés sur des lycéens. Bon, c'est des.
Ah bah quand t'as redoublé 3 fois, effectivement, ça se voit, et en NBA, on verra bien. Ouais.
Et du coup, c'est ça en fait, le seul truc qui ressort, c'est est-ce qu'il pourrait être aussi dominant face à des physiques NBA, parce qu'il n'est pas extrêmement rapide,
ouais.
il n'est pas extrêmement explosif, mais il a un jeu de jambes pour pouvoir le contrer, ce truc-là, moi,
non,
que
moi,
je trouve hallucinant.
Ouais.
Est-ce qu'il va pouvoir, dans les styles de jeu NBA et dans les physiques NBA, autant s'imposer? Pour moi, c'est à peu près la seule question. Tu me disais que tu as des défauts, moi, j'en vois pas d'autres, en fait.
Bah, en fait, si, mais c'est un défaut qui n'est pas. Ce côté de vrai poste 4, il va falloir quand même. En NBA, je dis pas, mais il y en a moins des postes 4. Et il y a pas mal d'équipes dont le système de jeu, c'est un pivot protecteur de cercle et des ailiers shooters, par exemple. Lui, il rentre pas forcément. Tu vois, par exemple, dans comment joue Boston, il faudrait. Alors, il n'ira pas du tout à Boston, c'est un mauvais exemple. Mais il faut un peu adapter les choses. Parce que c'est un joueur pour l'utiliser à pleinement. Si c'est pour entre guillemets lui faire Jaren Jackson en attaque, c'est débile.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et l'autre côté aussi, c'est que son côté power forward, donc poste 4 en défense, attention, je pense pas qu'aujourd'hui, enfin dès la saison prochaine, il soit capable de jouer petit pivot, par exemple, parce qu'il n'y a pas de protection. C'est pas ce qu'il sait
pas
faire.
Pas de protection de cercle incroyable, non, ouais.
Tu vois,
épais, donc, il peut pas te défendre sur les
il
deux.
Il a un profil
c'est plus compliqué,
incroyable
quoi.
Que moi j'adore. J'adore les postes 4, tout ça. Tout ça. C'est une espèce en voie de disparition. On dirait les pandas là en NBA. Il y en a bientôt plus, tu vois. Mais le seul bémol, c'est que bah, c'est un peu le revers de sa médaille. C'est pas. Il est pas si moderne. Je sais pas comment dire. Il
non,
est pas
sûr.
Interchangeable en poste. Il est vraiment ce qu'il sait d'un poste. Je pense pas qu'il puisse jouer tout de suite small ball. Ou alors faut qu'il y en a. Faut voir qui est à côté de lui. Donc voilà, il y a une utilisation. Et Boozer, je pense qu'il faut l'utiliser pour ce qu'il est.
En fait, je dis pas qu'il leur ressemble du tout,
ouais.
Mais là, quand tu vois les vrais postes 4 en NBA, j'ai envie de parler, je sais pas, de Siakam,
ouais, Siakam
de Zion, de Banchero,
ouais.
De Jaren Jackson, d'Evan Mobley, tous ces gars-là. Ils ont pas forcément toujours trouvé leur système, il faut bien les entourer, il faut avoir les bons mecs à côté et tout, je suis d'accord. Mais en fait, la question pour moi avec Cameron Boozer, c'est est-ce qu'il est assez fort pour. Enfin, les très très forts joueurs arrivent à créer leur propre mode d'une certaine manière.
Oui, non,
est-ce qu'il est encore plus fort que tous ces gars-là à terme, franchement, c'est possible, il en a les moyens, et dans ce cas-là, cette question se posera plus. Mais il faut qu'il soit assez fort pour se dire bon, bah, en fait, c'est pas que un mec qui envoie 19-10 en dormant, ce qui est déjà très bien. Mais là, on parle en comparaison avec des Dibanza et des Peterson qui. Ils ont des profils pour potentiellement être des superstars. S'il veut être le meilleur joueur de sa QV, il va falloir aller encore plus haut. Mais il a un plancher.
Ouais.
Il a un plancher, bah c'est ça ce que je viens de dire. 19-10 en dormant, avec une défense qui n'est pas ridicule. Et ça va peut-être faire une séquence. Moi, je serais étonné si ce gars-là est jamais All-Star dans sa carrière. Quoi qu'il arrive, tellement le plancher, il est ridicule. Quoi. Mais voilà, moi, je suis très, très fan de Cameron.
Moi, j'attends, moi aussi, mais j'attends de voir. Attention à où il tombe, qui est autour. On en reparlera et puis Bastien, Alex, on peut vous le dire d'ailleurs, on feront une mock par exemple, des choses comme ça. Boozer, je trouve que c'est le genre de joueur où quand même ça peut changer pas mal de choses. Là où il tombe et comment ça joue, et notamment offensivement. On passe au quatrième.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un autre poste 4 et que c'est un peu
l'inverse.
C'est un peu l'inverse complet de Cameron Boozer. C'est Caleb Wilson de North Carolina.
Tu les fusionnes, t'as l'intérieur moderne parfait. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que c'est un peu une licorne, entre guillemets, Caleb Wilson sur le. Bah, déjà, il est immense, il fait 2-10, 2-8, 2-9, 2-10, des bras interminables. Là où Boozer est plus tassé, plus trapu. Boozer, il fait quoi? Un bon 2-5, 2-6?
Ouais, il est costaud. Hein.
Et puis, alors, moi, Caleb Wilson, il est terrifiant dans tout ce qui est l'open court. C'est-à-dire, tu le vois prendre un rebond, tu le vois partir. Sean Kemp.
Non mais vraiment,
Sean Kemp.
Sean
Kemp, c'est vu. Hein. Dans les joueurs modernes, Mobley qui aurait pris un énorme coup de pied au cul. Non mais je sais pas, pour le physique, et encore moi je trouve Mobley.
Jeune KG, enfin c'est pas très récent du coup.
Non
mais...
c'est pour ça dans la...
Ouais non mais c'est un gars qu'on voit plus forcément trop. Enfin,
ce qui est Siakam maintenant, mais dès le début de sa carrière, avec les jambes... Siakam de son niveau actuel avec des jambes de 20 ans.
Ouais. John Collins, mais en plus. Non, mais je parle dans l'agressivité au cercle et dans la capacité à démonter des arceaux. Je pense qu'il est plus fort.
Mais je le trouve déjà. Il est en plus. Il est bien plus talentueux qu'un John Collins.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a du talent derrière, il n'y a pas que l'athlète.
Mais là où je disais que c'est l'inverse de Cameron Boozer, c'est Cameron Boozer, on en parle peut-être comme le plus haut plancher de cette draft.
Ouais.
Caleb Wilson, c'est pas le cas. C'est le seul de ce top 4 où il y a vraiment des interrogations, pour le coup, parce qu'il manque. À l'heure actuelle, beaucoup de choses, mais juste les flashs par contre sont hallucinants et en termes de potentiel, c'est très, très haut.
Qui est moins solide. Je sais pas s'il est plus bas, mais il est beaucoup moins solide.
Ouais, c'est le plancher. C'est le plancher de la baignoire de Jesse Pinkman. Hein.
Ouais, puis il est pas fini. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas s'attraper. Ça peut foirer, Caleb Wilson. Par contre, t'as des pics et des minarets.
Ouais.
T'as des flashs, ça monte à une hauteur. Et tu te dis que s'il reproduit ça, alors après, il faut avoir le cardio et tout. Mais t'as des moments de Caleb Wilson de 5 minutes comme ça où tu te dis on arrête tout.
C'est bon. C'est,
on
donnez
arrête
la NBA
tout.
Ce type-là.
Mais c'est vrai que c'est dû. À un jeu, par exemple, demain il arrive au milieu d'une série de playoffs. Tout ça, par exemple, ça n'existe pas parce que c'est encore beaucoup sur de la transition, du jeu ouvert, du machin. Et dès que ça se resserre, on va dire, dès que ça se comprime, dès que ça marche, tout de suite, tu vois qu'il manque des choses essentielles en fait.
Il est quand même très fort aussi au poste haut, quand même, pour se créer un petit chemin pour aller au dunk. Et là, il fait quand même une stat qui
est. En NCAA.
Oui.
Ça, à mon avis, en NBA, on va le voir un peu moins.
En termes d'énergie d'intensité. Ouais, mais c'est quand même un niveau où on a presque jamais vu en NCAA et j'ai des stats pour l'étayer.
Et là où tu as raison, c'est que je pense qu'au début, parce qu'un peu manque de poids et tout, mais on le reverra d'ici 2-3 ans en NBA.
Tu vois
ce que je veux dire?
Mais oui, pour l'étayer, pardon, il y en a eu 66 des dunks en 24 matchs. En fait, c'est des stats qui, tout joueur confondu en NCS, on a vu Anthony Davis et Marvin Bagley sur les 20 dernières années, et c'est ouais. tout. Sachant que c'est pas du tout le même genre de joueur. C'est pas un gars, parce que Anthony Davis était beaucoup utilisé aussi un peu sous le cercle parfois en NCS. Là, c'est un gars qui part de l'extérieur pour aller au panier. Du coup, ça fait une moyenne de quoi, 2,4 par
c'est
match.
C'est en ça qui me fait penser à Siakam.
2,8. Ouais. ouais, non, mais c'est hallucinant cette faculté à prendre au cercle.
Drive.
C'est un gars qui a tourné à 20 points de moyenne sans avoir pour l'instant beaucoup de shoot extérieur, même s'il y a des flashs, c'est en train de se construire.
Il n'y a pas. C'est un chantier encore balbutiant.
Ouais,
shoot.
On est genre sur 27%
par
à 3 points, il me semble.
Slasher et du toucher. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les dunks, mais il y a aussi même des finitions, tout simplement pures. Des shoots un peu hybrides de face, des choses comme ça. Moi, là-dessus, ça fait vraiment penser à Siakam. Et pareil, tu sais, un dribble fort, un spin, et puis en fait, t'es tout de suite au cercle.
C'est ça.
Voilà. Mais c'est vrai que le petit bémol que moi j'ai, c'est monstre athlétique, vraiment extraordinaire. On parle.
Bon, c'est le plus gros athlète de cette draft. Enfin, ou.
Ouais, sans doute. Moi, après, en tout cas, avec des joueurs de grande taille, on va dire, parce qu'il y a des petites bombes sur les postes, sur les postes plus arrière. Après, il faut voir. Il y a du travail. Mais si jamais, effectivement, et c'est ce que vont faire, c'est le pari que va faire l'équipe qui le draft, il est projeté à Chicago parce que c'est un peu le moins fort quand même.
Oui, aujourd'hui, déjà à l'heure actuelle, de très loin.
C'est pour ça qu'il est projeté 4. Lui, ça n'a jamais bougé. Il a toujours été vu 4. Voilà. Si tu arrives à lui faire bosser au moins à l'arrêt, après de la circulation de balle, un bout de shoot, et, voire même à 3 points, mais même un peu extérieur et tout, et qu'il continue comme ça à développer, à rajouter des choses sur l'attaque de cercle et tout, et ce moteur. Tu peux avoir une machine de guerre parce qu'on n'en a pas parlé en fait, Robin Lassoy. On va finir pour ce qu'elle est Bunson. Défensivement, moi je pense par contre, il va faire des dégâts en NBA dès le début. Il a envie, il a les capacités, il a le timing, il a le sens du rebond, il a le sens du contre. Moi j'ai vu des choses dans des reports, hein, j'ai lu aussi que défensivement c'est déjà très polyvalent et convaincant.
En fait, tu as parlé du shoot et je suis d'accord, il faut qu'il développe ça. Mais tu as utilisé un autre mot qui est pour moi encore beaucoup plus important dans, en tout cas, ce qui sera dans ses premières années en NBA, le moteur. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit est vrai, il a tout ça, mais il a montré justement, il a une énergie dingue, il débauche une intensité sur quelques séquences qui sont exceptionnelles, mais pour l'instant, il n'a pas le moteur pour le tenir sur des grandes séquences. Donc oui, il a tout ce potentiel en défense et il a tous ces flashs qui sont hallucinants. Mais on a vu aussi quand même beaucoup de moments où bah, en fait, il est cramé, il est mort et il se laisse dépasser par des joueurs bien plus lents que lui. Il oublie sa rotation. C'est un gars qui a le potentiel pour être un des meilleurs défenseurs de NBA, mais qui ne l'est pas en l'état. Il faut qu'il travaille ce truc-là. Concentration, ça viendra, je pense, justement avec le fait qu'il sera plus fit. Enfin, fit, ce n'est pas le bon terme, mais plus endurant, tout simplement. Et ouais, là, ce qui est super excitant, c'est que des deux côtés, parce que même le shoot en toute fin de saison NCAA, il est rentré de plus en plus, notamment à mi-distance.
Oui,
avant
la mécanique
n'est
pas cassée,
main.
Loin de là. Donc là, il y a du boulot, mais il n'a pas un shoot cassé, ça va venir.
Et en défense, c'est ça, les flashs, ouais. C'est les meilleurs flashs de cette draft, mais par contre, il faut bosser ce moteur. Ça sera pour moi, c'est la clé de ses premières saisons NBA. S'il peut tenir sur le terrain 30 minutes en ayant cette régularité en défense, bon bah développe-toi tranquillement en attaque, t'es déjà un joueur qui a un impact fort, très 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 fort sur le court. Mais en l'état, il y a aussi un doute de ce côté-là pour moi.
On sent que Robin parle sans doute d'un des futurs joueurs des Bulls.
Ouais.
En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le plus probable annoncé au 4. Pour finir, Robin, pour te donner du kiff aussi, parce que j'ai l'impression que vous allez l'avoir aux Bulls, vraiment.
Ouais.
Il risque d'y avoir des vidéos assez vite technique de dunk, parce qu'en fait appui technique de dunk, là je parle de technique vraiment, pas parce que il a en gros une vitesse de bras couplée à des appuis. Moi je l'ai vu, je fais gaffe à ça, tu vois, sur il y a des dunks, c'est fluide en fait. Alors évidemment, appel un pied main droite et tout, c'est son truc naturel, et il a même tendance parfois pour équilibrer le corps à aller chercher la main gauche. Et il est capable aussi de ça, donc indifféremment du un pied. Mais pardon, je me suis forgé, c'est gros appui sur le pied gauche et grosse finition, corps très droit et tout. Mais t'as aussi du deux pieds qui vient naturellement. Je l'ai vu aussi choper d'alley-oop indifféremment des deux côtés de la planche. Ligne de fond à gauche, ligne de fond à droite et tout. Et tu vois qu'il y a encore de la marge, donc il va bosser aussi ça, ses appuis et tout. Et je pense que vraiment Caleb Wilson, peut-être que je me trompe, mais on va en parler comme une référence de ses postes 4 dunkers. C'est pour ça que je te parlais de Sean Kemp. Il y a du Kenyon Martin aussi dans la violence de l'attaque du cercle.
Ouais.
Et si jamais, et ça c'est ce que je souhaite, alors à Chicago on verra, mais il trouve un partenaire d'alley-oop comme Kenyon Martin a eu son kid ou Sean Kemp a eu son Gary Payton, il peut y avoir potentiellement un duo qui va nous alimenter sur 3-4 ans et tout de top 10 de alley-oop dunk, parce que t'as un bon meneur avec Caleb Wilson qui arrive un peu sur la ligne de fond là.
On va voir si Josh Giddey reste, mais il pourrait être ce mec là au début.
Ça pourrait être du kiff très vite.
Ouais, je suis complètement d'accord. Avant de passer à nos petits chouchous,
la dunkologie,
Avant de passer à nos petits chouchous, j'aimerais simplement te lancer rapidement. On va pas faire toute notre mock, comme tu l'as dit, Alex et Bastien le feront bien mieux que nous.
De toute façon, moi, après le Pixel, j'arrête, ça m'intéresse plus.
C'est ça. Mais là, dans ces quatre-là qu'on a présentés, quel est le scénario que tu imagines là dans moins d'une semaine du côté de Brooklyn?
Ah oui, du côté de Brooklyn. Ah oui, pardon, sur les pics, pas des Nets.
Du côté du Barclays Center. Excuse-moi. Là où aura lieu la cérémonie mardi prochain.
Je pense que j'ai en Washington parce qu'il y a encore Trae Young et que du coup. Enfin, c'est même pas une question de fit et tout, mais je sais pas, je les vois pas passer sur Eddie Bonsa là maintenant. Du coup, c'est là où moi, dès le début, je peux. Est-ce que tu sais que moi, je vais prendre la grosse cote.
Ok.
Parce que là, c'est l'inverse de mon. Pourtant, Utah, sur le papier, à voir, parce qu'ils ont déjà Markkanen, ils ont déjà Jaren Jackson, ils ont, comment il s'appelle, Walker Kessler, mec là, qui est en train de... Pour l'instant, c'est loin, ils sont loin d'être d'accord en termes de prolongation et tout. Tout ça pour dire que je vois bien les Jazz prendre Boozer, en fait.
Ouais.
Parce qu'il y a le papa, et parce que je sais pas quoi, et voilà. Et parce que Peterson, à mon avis, les agents, tout ça, ça passe des trucs. Jouer avec Keyonte George, qui est quand même un peu le chouchou du Jazz, il y a Jace Bailey, il y a... Et ça arrange tout le monde. Du coup, Peterson, nouvelle star de Memphis.
Okay.
Et Caleb Wilson aux Bulls.
Okay. Oui,
je sais pas si c'est ce qui se passera, c'est ce que moi j'ai l'impression que ce serait le bon spot. Un peu tout le monde est content. Tu vois, je suis très dans la social-démocratie.
Ouais, ok. Bah, je suis assez aligné avec ce top 4. Après, moi, là, dans le scénario que tu dis, je rêve que les Grizzlies soient fans de Caleb Wilson parce qu'ils vont quand même
ou
le voir en workout.
Parce que. Ah oui, non.
Et que si Peterson il peut glisser dans ton scénario, il n'y a aucun souci. Mais
et
oui,
Boozer, et oui, tu me suis pour dire Boozer en deux.
Ouais, je le vois bien.
Memphis dit non, Caleb Wilson, c'est trop une dinguerie, on veut du dunk. Et Peterson, il fait des trucs bizarres, il a un poireau, ça va pas. Ouais, et t'as Peterson au bout.
En fait, on peut complètement se tromper, mais ouais, je suis d'accord. Moi,
la plupart des mocs donnent Peterson en deux encore.
C'est ça.
Mais à Utah.
Ouais.
Et Boozer à Memphis.
Et malgré qu'il est à peu
ça
près.
Ça lui va bien, Memphis aussi, à Boozer. Espèce de mix de poste 4, là. Ouais, pardon.
T'inquiète. Malgré que Peterson ait à peu près dit qu'il voulait pas aller à Utah, on a vu l'année dernière avec Ace Bailey que Utah s'en fichait. Donc s'ils considèrent que Peterson est le plus gros talent, ils le prendront.
Bah, Utah, de toute façon, je pense qu'ils s'attendent pas à ce qu'un mec dise je veux aller à Utah. Donc si tu veux, à partir de là, ils draftent ce qu'ils veulent.
Ah, tu sais que cette année, justement, Eddie Bonsa qui vient de BYU de Utah là, et Boozer qui a son père. En fait, ils sont presque au mauvais spot parce que je pense que.
Peut-être c'est la surprise. Peut-être que c'est Boozer Peterson qui part heureux. En 1 à Washington pour avoir tout de suite les. Mais bon, je sais pas.
Peut-être qu'ils font un trade Utah s'ils veulent vraiment demander ça pour monter. On verra. Passons au chouchou. Simon, quel est le premier gars dont tu as envie de nous parler? On va devoir faire un petit peu plus en bullet point.
Oui, ça va aller. On a pris notre temps pour le top 4. Là, on va aller plus. Bah, moi, mon chouchou, c'est Darius Ekeuf dans ce qui reste.
Ok.
Déjà parce que c'est le chouchou de ce que chez des Kings. Qui espérait pas trop tomber à la draft, donc piquer 5 pour l'avoir, qui là sont en 7 mais peuvent toujours rêver de l'avoir. Vous voyez ça avec les différents scénarios de mode draft, mais en gros, il y a pas tout spoiler, mais il y a un groupe de meneurs là en étant en 7, mais ça vaut aussi pour en gros 5, 6, 7. On s'attend à ce que s'il y ait des meneurs qui tombent, il y a les Clippers en 5, les Nets en 6, les Kings, les Hawks en 8, voire même Dallas serait concerné. T'as des arrières, on va dire, meneurs, mais
en fait, on peut aller plus loin de 5 meneurs. À 12. Normalement, on va y avoir 5 meneurs sélectionnés. Il y a une grosse masse à ce moment-là de très très bons. Très très bon posteur.
Donc ce qui est bien pour même Atlanta ou les Kings par exemple, c'est qu'il en restera toujours un normalement de dispo. Mais là-dedans, moi et Ekeuf, il y a quelque chose qui me fait kiffer, c'est tout simplement il me rappelle Allen Iverson, en fait. C'est aussi con que ça.
En fait, enfin, c'est, voilà. C'est n'importe quoi.
Ouais, c'est n'importe quoi.
c'est
n'importe quoi. C'est ton chouchou par le sais pas comment dire. Bah, tu vois ce qu'on disait sur Peterson, le côté de la grande difficulté et tout. Alors lui, c'est plus un meneur, il doit faire 1m90 et encore 88.
Ouais, je crois que ça annonce 91, mais je serais pas étonné si c'était un peu
par
plus bas.
Par contre, il fait Doberman cross Rottweiler cross Labrador énervé cross, je sais pas combien il paie, mais il a un côté. Ça lui allait bien de jouer en plus pour les. C'est quoi, c'est des sangliers?
C'est Arkansas.
Razorback là, voilà. Mais ouais, tu vois ça. Bien costaud.
Ouais, c'est quelque chose.
Il y a un peu de Damian Lillard aussi dans le style.
Ouais.
Mais je trouve presque plus d'Iverson. Bah, en gros, il a. Je sais même pas comment dire ça, mais il a une. Il est ultra agressif, en fait, tout le temps. Tout le temps, il joue tout. En attaque, alors, par contre, en défense, il est ultra passif. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ça l'intéresse pas.
C'est ça.
Alors, à voir si c'est vraiment. Ça l'intéresse pas. Ou il est nul. À mon avis, c'est un peu des deux. Ça l'intéresse pas parce qu'il doit pas être très fort. C'est scandaleux, hein. On a vu passer des passages et tout. Mais bon, on verra en NBA. Puis voilà.
Ah,
par contre, en attaque, le. Bah, d'ailleurs, même. Donc, il a eu. Parce que coach Calipari maintenant est à Arkansas.
Oui, ce qui a formé un nombre de gardes incroyables à Kentucky pour ceux qui ne savent pas, tous les Fox, les Booker.
Voilà.
Les...
Et lui, il dit il est là-dedans, quoi.
Ouais.
Minimum, il est... voire c'est l'un des plus forts qu'il ait eu de John Wall. Bah, il a eu SGA, il a eu Booker, il a eu Fox. j'en passe, c'est des meilleurs, Malik Monk, enfin voilà. Et Keuf, il y a.
En fait, il y a un combo shoot, passe, dribble, puissance qui est exceptionnel. En fait, c'est j'en parlais justement, c'est lui qui a 23 points, ce qui est le deuxième, il me semble, meilleur score d'NCAA derrière Dibonsa. C'est un score hallucinant. Et en plus, un très bon passeur, très bon playmaker.
En fait, il y a un truc qui est assez rare à son âge, mais qui est déjà sur la table avec lui. Donc, triple menace, passe, ouais, dribble, shoot. Et en plus, dans le shoot, dans le scoring, ce qu'on appelle les trois niveaux de scoring. De loin, mi-distance, près du cercle. C'est-à-dire qu'à 3 points, c'est une gâchette. C'est une gâchette en catch and shoot, c'est une gâchette en sortie de dribble, c'est une gâchette en iso, c'est une gâchette après la circulation de base, c'est une gâchette en sortie d'écran. Voilà, c'est une gâchette. En hésitation, on va dire, jeu un peu de 1 contre 1, passer l'épaule, etc. et tout pour aller prendre du pull-up, voire finir au cercle, c'est déjà... avec son physique qui lui permet d'absorber les contacts, mais aussi son dribble, le fait qu'il peut alterner dribble très bas, dribble court, dribble un peu plus long, machin. Moi, j'ai rarement vu un mec mettre à l'amende comme ça régulièrement, mais vraiment, tchac, tu vois, vraiment, vraiment, vraiment.
Il se crée son tir comme il veut, quoi.
Voilà, par contre, c'est le problème, c'est que ça avait l'air très facile pour lui la NCAA, et je pense honnêtement que Darius Akeuf, au début, ça va lui faire tout drôle la NBA.
Ok.
Parce qu'il va pas se balader. Là, il est dans le. Comment dire, là il est dans le petit bain. Il a les bouées, il a pied, il y a maman à côté pas loin, tu vas pas te noyer, il fait ce qu'il veut, tu vois. Et d'un coup, on va lui enlever les bouées, on va machin, il sait toujours nager, hein. Mais ça va lui faire un peu tout drôle, il va avoir un temps d'adaptation parce que là, moi, il se balade en NCAA.
Mais ce qui rend optimiste quand même, c'est que malgré toutes ses responsabilités et tous les shoots parfois compliqués qu'il a pris, il a 48% au tir, 43% à 3 points. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il a un talent offensif pour s'imposer à n'importe quel niveau.
Ouais.
Assez d'accord. Un autre gars.
Oui,
permet.
Parce que Keuf, après on pourra en faire des gars, mais si, bah après à travailler la sélection de tir, les paires de balles, tout ce qui va avec, voilà. Un autre gars, toi tu penses à qui?
Ben moi, c'est mon chouchou à moi pour le coup ultime de cette draft. J'en ai déjà vite fait parler, mais Keaton Wagler. Si Curry avait pas le très bon surnom d'assassin à la tête d'ange, on est en plein dedans.
On dirait un gamin, c'est orthodontiste.
Très, très grand pour un meneur de jeu, 1m97, oui. Facile, un truc comme ça.
Un bon 95, longiligne, un peu un physique à la Liberton, mais encore plus
élastique. Ouais. Mais en fait, justement, c'est le gars qui est plus comparé, tout simplement parce que c'est pas non plus un surathlète. Il a pas une rapidité folle. Mais moi, j'aime bien son histoire. En début de l'année, il était sur aucune mock draft et en fait, il a fait une saison... hallucinant à Illinois qui l'ont mené c'est exactement
demi,
jusqu'au Final Four. Il a été c'est un énorme shooter, enfin il a des très très bons pourcentages notamment sur ses step back.
Ah, c'est élite.
Ouais, c'est absolument élite, justement. Comme il crée pas forcément toujours de différence avec sa vitesse et son explosivité, c'est un peu à la manière d'un Peterson. Il a quelques shoots compliqués et malgré ça il a des pourcentages exceptionnels, step back magnifique on l'a dit, à mi-distance ça va, ça rentre, mais sous le cercle parfois il manque un petit peu de puissance du haut du corps, mais ça se bosse pour faire des très bonnes finitions. Mais bon, overall c'est un très bon meneur d'attaque, et en plus il tournait qu'à 4 passes décisives cette année. Parce que notamment, ses intérieurs n'étaient pas forcément des grandes forces sur pick and roll. Il n'y avait pas des shooters forcément exceptionnels dans les corners à Illinois, mais il y a quand même des grandes compilations où tu vois que sur pick and roll, c'est un des meilleurs de sa draft. Donc il y a un peu ce côté Liberton où en termes de shoot pass, c'est déjà très très fort. Après, en défense, c'est plus compliqué. Ouais. Physiquement, ça peut être plus compliqué.
Ah, il n'est pas épais, comme on dit, il se planque derrière la photocopieuse, hein, sans problème.
Mais il peut jouer au-dessus de ses défenseurs avec son 1m97.
Il est grand. Après, à voir si en NBA il jouera vraiment meneur. C'est un joueur assez atypique parce que il peut jouer meneur, mais en fait il joue meneur. Mais finalement, tu te dis comment dire, c'est rare que ce soit pas le meilleur shooter de son équipe sur le terrain.
Ouais.
Là, les gars, je vous dis, les gars, les filles, les gens qui regardent cette vidéo, les aliens, tout ce que vous voulez, qui regardent la vidéo, bien sûr, évidemment. J'ai rarement vu un mec, enfin rarement non, mais à chaque on te dit souvent il y a des shooters élites, Là, il est shooter élite comme si ça se trouve comme Con Knuppel, et on l'avait en NBA, et shooter élite. Je trouve qu'il y a une faculté. Si ça se trouve, il faut 403 points en NBA l'an prochain, ce mec.
Ouais,
il en est capable au niveau de la mécanique de shoot.
En fait, ce qui est dingue, c'est que là, il a des pourcentages fous alors que c'est lui qui avait la balle en main. C'est pas sur des catch and shoot, etc. Et
c'est
catch
là
and shoot,
où
ça
en NBA,
aussi.
Je me demande si ça reste ce meneur qui va prendre beaucoup de 3 points, ou si on va quand même lui dire, Coco, tu vas jouer poste 2, et en fait, tu vas faire du Kevin Martin. Parce que je vois aussi des combinaisons avec des arrières frêles légers à la Kevin Martin. Pour finir, vu que toi t'as un short des Kings, moi j'ai un short des Kings, mais qui est Wagler, j'ai vu dans la mock draft notamment de Kevin O'Connor, il y a deux comparaisons, je l'ai étudié hier, à Liberton, Kevin Martin. Et il était annoncé en 7 aux Kings. Il est dans ce range-là, hein, de toute façon. Là, on parle de joueurs, donc Acuff, lui.
Souvent annoncé au 5 aux Clippers pour l'instant. Après,
parce que le fit est bon en plus
pas...
aux Clippers. Parce que justement.
On ne sait pas trop ce qu'ils vont prendre quand même.
Bah, le problème, c'est que si tu prends Acuff, t'as déjà Garland, t'as deux meneurs un peu nimbus. Wagler règle ce problème, par exemple, en termes de fit.
Ouais, est-ce qu'ils vont trade-down ? Plein de questions.
Très bon défenseur aussi, hein, Keaton Wagner, on l'a pas dit, mais un peu vu.
Ouais, il peut se faire enfoncer aussi. Hein. Mais,
ouais, mais QI défensif, quoi. Discipliné. Ouais, en fait,
c'est un meilleur défenseur off-ball que on-ball, en fait.
C'est pour ça que c'est tentant de se dire que c'est peut-être un 3&D, en fait. Enfin, un 3&D en arrière, quoi.
Ouais. Un autre chouchou.
Ouais, Michael Brown. Ah. Ça, c'est gros chouchou. Malheureusement, on va commencer par la blessure au dos qui l'a empêché de disputer la March Madness. Mais avant ça, il y a quelque chose d'assez fascinant, d'assez. Comment dire, joueur kiffant de ouf parce que il est beau à voir jouer en fait, tout simplement. Il a cette espèce de plus-value.
C'est un des plus gros potentiels sur le papier de cette draft.
Ouais, et puis vraiment beau à voir jouer, c'est-à-dire que on va, il sert bien de sa main gauche comme de sa main droite. Il est hyper naturel. Il regarde pas son ballon quand il dribble. Les passes, elles partent naturellement, quel que soit l'angle, etc. et tout. Donc vraiment bon passing. Il a un tir extérieur assez, assez redoutable, et avec une grosse distance et une mécanique, ça part vite.
Il a un gros range, ouais.
Ouais, c'est pas trop mal. C'est un peu encore des fois un peu à l'aléatoire, mais c'est très naturel quand même. Enfin voilà. Par contre, la sélection, elle est un peu folle, mais parce qu'il sait que. Il sait que.
C'est un micro-ondes, quoi.
Ouais, mais il y a un côté de Jordan Poole. Des fois, tu lui dis, hey, calme-toi. Moi, j'ai l'impression que jouer avec lui, des fois, je sais pas, faut voir. Faut voir ce que tu tolères ou pas de ton meneur de jeu. Parce que si ton meneur de jeu, deux fois de suite, il prend des shoots du logo au bout de deux secondes de possession, c'est quand même un peu chelou. Mais par contre, c'est ça qui est bizarre, c'est que son. Voilà, il y a des mauvaises décisions et tout. Par contre, dans sa capacité à manipuler la défense, on l'a vu. À tout de suite comprendre la couverture défensive, faire la bonne décision et tout. Il y a quelque chose qui est assez alléchant et qui fait même dire à certains qu'il faut tenter le pari et qu'il y a peut-être une superstar assez exceptionnelle dans Michael Brown.
C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'on connaît ce genre de prospect. C'est le gars, il y a un an, il faisait une compétition internationale avec Dibansa et c'était le meilleur joueur des deux.
Et à Team USA, c'était vraiment un peu le patron à la main par rapport aux autres meneurs et tout.
Et là, sans sa blessure au dos, il serait peut-être encore plus haut dans les discussions. Il va vite, il est très bon shooter, très bon passeur. Enfin, c'est tout ce qu'il faut, mais c'est les défauts qu'on a déjà eu chez beaucoup de prospects, et parfois ça en crée des très très bons joueurs, parfois ça crée des joueurs plus compliqués, ou en termes de concentration c'est pas toujours ça, notamment défensive. Je faisais ce geste là parce qu'il y a des soirs où il va te mettre 8 sur 11 à 3 points, mais il y en a d'autres, il va te mettre 1 sur 17. C'est ce qu'il a confiance en lui, il continue de shooter, et vraiment les pourcentages, il me semble que sur 11 de ses 21 derniers matchs en NCAA, enfin 11 de ses 21 sont à moins de 30% à 3 points, donc il y a vraiment des phases où ça rentre plus. C'est ce joueur-là. Il a un des plus gros plafonds de cette draft. Plancher, c'est une question.
Ouais. Dans les comparaisons, je pense que c'est assez dur parce qu'en fait, c'est un joueur. Soit ça devient un meneur très bon. Il y a quelque chose d'assez similaire à Triong, même si, mais dans le style, dans ce que tu peux faire avec lui. Mais alors, c'est un autre gabarit. Il est plus grand, donc ça devrait permettre plus de choses. Mais Michael Brown, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça pue aussi le côté genre, en fait, t'es un espèce de Jordan Poole de luxe, mais tu t'es pas titulaire parce que t'es trop fou, quoi. Je sais pas.
Ouais, non, c'est possible.
Mais c'est bizarre, l'échantillon est très maigre, il y a pas beaucoup de matchs. Mais par contre, il est, je le redis, je finis par ça sur Michael Brown. C'est difficile, il envoie du kiff comme peu de joueurs dans cette QV. Hein.
Je suis d'accord, non, mais il a le potentiel chouchou. Je vais aller rapidement sur Adai
Mara. En disant ça,
je me dis,
mais quel profil des Kings je viens de décrire quand t'as un mec pareil.
C'est vrai. Ouais. Adai Mara, je vais assez vite parce qu'en fait c'est pas forcément un de mes chouchous, c'est juste une énorme intrigue parce qu'on est sur un gars qui fait un espagnol déjà qui fait plus de 2m20, 118 kilos, donc c'est un buffle absolu, et qui s'il intrigue autant, c'est que malgré avec ce gabarit, c'est un très bon passeur. Il y a un côté c'est un playmaker très bon poste haut, il a pas de shoot, la mobilité c'est pas horrible, mais c'est pas Wemby non plus, quoi, pour cette taille-là, clairement. En défense, ça peut être plus compliqué. D'ailleurs, je crois qu'en NCAA, il joue que 23 minutes par match. C'est le genre de gars que, à mon avis, tu peux pas faire jouer 36 minutes. Mais par contre, sur ses passages, il a un impact dingue et très bon finisseur, parce que au-delà de ses dunks, je crois qu'il est à plus de 70% au lay-up. Donc, même quand c'est défendu, le fait de faire 2m20 aide, évidemment. Mais il finit ses actions. C'est un très bon passeur. Et puis il a montré son caractère de winner parce qu'il fait partie de cette équipe magnifique de Michigan qui a gagné le titre. Ouais. Lui, en demi-finale, il pose 25 points, 9 rebonds. Ouais. Donc il sait se montrer dans les gros matchs. J'aimerais bien revoir un Espagnol fort en NBA, rien que pour recréer une petite base de rivalité, quelque chose, parce que là c'est toujours cool quand on les joue, mais il n'y a plus les joueurs en face qui nous font forcément kiffer. Bon, après on peut se faire finir par des Hernan Gomez, etc. Mais j'aimerais bien que cet Adaimara soit un petit peu la tête de cette nouvelle génération. En plus, il y en a d'autres dans la draft.
Lui, sa chance, c'est qu'il est annoncé. Alors ça dépend. Si ça se trouve, c'est une surprise, les Clippers le prennent pour succéder à Zubac dès le poste 5, dès le pick 5, et en font leur pivot titulaire dès l'an prochain. Ça, c'est par exemple, c'est là où la draft c'est fantastique. Donc, ça se trouve, c'est ça la carrière qui l'attend. Enfin, en tout cas, le départ de carrière qui l'attend. Soit, en fait, il est drafté par exemple par le Thunder ou les Warriors.
Ouais.
Les Warriors en 10, je crois.
C'est ça le plus probable, c'est entre 8 et 12, quoi, globalement.
Dallas peut aussi peut-être tenter un coup.
Ouais, pourquoi pas. S'ils
veulent faire plein de trades et que, par exemple, Gafford, on le voit dans les rumeurs de trades.
Si Lively est cassé.
Lively, voilà. Donc ça dépend Mara où il va tomber, mais il y a un monde où il joue 20 minutes par match puis vous remplaçant des Warriors, et très vite on se dit mais pourquoi on a laissé faire ça. Et en fait on se dit mais c'est quoi cette espèce d'Artenstein avec des meilleures mains. Ou tu vois, je sais pas, c'est dur à dire Mara parce que c'est assez atypique, mais dans le rôle, je veux dire les utilisations qu'ils vont en faire, tu vois, les Warriors par exemple, dire ah bah en fait ils ont une espèce de grand balourd mais qui a des bonnes mains, et en fait vu que tout autour il y a du jeu, c'est parfait à voir. C'est très intriguant.
Ce qui est un peu facile comme comparaison, parce que c'était il y a pas longtemps, c'est Zakidi, mais par rapport à Zakidi, c'est un meilleur passeur et c'est un moins bon rebondeur. Parfois, il est un peu de.
Puis il
laisse échapper des trucs un peu bêtes. Il va pas sécuriser la raquette à ce niveau-là.
Il est pas costaud de la même manière, je sais pas comment dire ça. Zakidi, il y a vraiment un côté, bon, c'est con ce que je dis, mais tu sais,
c'est un buffle quoi.
Il y a un peu plus de force. Mara, il y a vraiment plus quelque chose de l'ordre de la taille, de l'envergure, du côté, je trouve. Il est quand même moins costaud.
Très bon rim protecteur, je sais pas si on l'a dit, mais c'est le giga cette taille-là, mais fallait le dire.
Ouais, j'avais vu un taux de contre de 13%, je crois, sur le temps de jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. En vrac, deux, trois autres petits noms quand même.
Ouais, très rapidement. Ouais.
Bah, peut-être son coéquipier. Ah, non, là, t'as qui ? Non, mais parce qu'on était à Michigan.
Son coéquipier, oui, je peux y aller.
Ouais, comme il était champion à Michigan.
Yaxel Lundborg. Vous allez en entendre plus parler avec Bastien, il l'adore.
Bastien aime beaucoup. Non, mais en gros, c'est un mec qui est déjà. Qui est tout à fait NBA ready, et pour cause, il a 24 ans.
23.
Bon, 23,
c'est...
ouais.
C'est un senior, quoi.
Ouais. On en parle comme un très bon ailier, on va dire connecteur. Alors, surtout défensivement. Défensivement, c'est un malade.
Ah, oui.
Il a un QI voilà, défensif, ça, je pense qu'en NBA, tout de suite, ça va. En NBA, il va dire, par contre, ça va se voir très fort. Il est très intelligent sur tous les trucs en fait assez avancés de jeu, le short roll, la lecture sur les short roll, vraiment le 4 connecteur défensif et tout ça, c'est super. Je dirais que c'est ça moi.
Ouais, bah c'est déjà un free handy déjà trop fort en NBA maintenant tout de suite. Tu parlais de ce genre de profil, une phrase, si le Thunder le récupère en 12, bon bah ils seront plus tranquilles pour laisser partir les Lou Dort et compagnie, parce que t'as un gars sur les ailes qui
par
peut
contre
tout
c'est
faire
pas Jalen Williams quoi. C'est-à-dire qu'il crée il a pas de c'est pas un mec qui va scorer pour lui.
Non, non.
C'est pas son jeu.
Non, mais il est juste trop fort dans ce qu'il fait. C'est déjà un gars qui connaît son rôle et qui va briller en NBA.
Qui va coller quelques 3 points, qui va, je pense, bénéficier. Lui, tu sais que si ça joue bien autour de lui, comme Oklahoma, des coupes, des choses comme ça, lecture de jeu.
Lui, là, il est déjà parti pour 15 ans d'NBA, il y a limite aucun doute.
Mais c'est dur de lui trouver un équivalent, je trouve, par contre. Un ailier vraiment très bon défensivement. Ouais, il y en a, mais tu sais que c'est. Parce qu'il est plus grand que les Trey Murphy et compagnie. C'est vraiment plus, je trouve, un 4-4 costaud qu'un ailier, tu vois. Il est grand.
Il est assez rapide pour le faire aussi. Ça peut être un très grand ailier, mais oui.
Non, mais Kyle Kuzma avec un cerveau, j'en sais rien.
Ouais.
Non, c'était pour une blague, pardon. Balle perdue pour Kyle Kuzma. Non, mais parce qu'il fait penser en termes de gabarit.
Ouais.
Je trouve qu'il est, il est bah, après, il a déjà 24 ans, mais il est costaud. Hein.
Ouais.
Très costaud, très gros QI basket. Qui d'autre ?
À l'inverse du gabarit, on va dire.
Ouais.
Parce qu'il faut en parler, il est dans les mêmes eaux que tous ces Michael Brown, Darius Ekef, Keaton Wagler, c'est Kingston Flemings.
Qui est un peu le meneur qui vient compléter là le pôle dont on parlait, qui est celui qui a peut-être la cote la plus. Comment dire ? C'est safe, mais c'est pas le plus excitant.
Ouais.
C'est vu comme ça.
Très, très rapide, très bon à mi-distance, sait se créer énormément de drive. Pas toujours la meilleure réussite au cercle. Par contre, pour les conclure, je crois qu'il est que à 55-60%, quelque chose comme ça, où t'en as d'autres qui sont plus vers les
70. C'est vraiment un meneur passeur, plus qu'un meneur scoreur.
Oui, en plus, il fallait commencer par là. C'est peut-être le meilleur passeur de cette draft. Ça se discute en
playmaker.
Tout cas.
Playmaker, meneur, créateur. Pensez Mike Conley, il est comparé à ça. Dion est très rapide aussi. Donc moi j'ai vu des comparaisons de Fox, parce que c'est pas le même joueur.
Non.
C'est sur le gabarit, et même il est pas foutu pareil.
Ouais, meilleur passeur, t'es un peu un wall de fin de carrière quand il avait plus autant de qualité athlétique forcément.
Moi je trouve que ce serait Mike Conley en quand même un peu plus speed, mais le jeune Mike Conley. Dans ce qu'il va apporter à une équipe, et c'est super par contre, et parce que tout de suite défensivement, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est très bon QI basket, très grosse volonté et un peu une peste.
Ouais.
vraiment à bloquer un peu le, à le prendre personnellement, à bloquer le meilleur, à dérailler comme ça, sortir de sa zone de confort le meneur adverse. Et puis quand même en attaque, il est peut-être plus rapide même que John Michael. Très, vraiment premier pas et démarrage très rapide. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est tu le vois, petit bras. D'ailleurs, au combine, ils l'ont vu, ça s'est vu et ça l'a fait baisser un peu la draft. Gabarit, pas de détente. Et en NBA, je sais pas, ça peut être compliqué pour scorer, mais il y a tout le reste. Il y a l'intelligence, il y a des bonnes bases. Il prend peu de shoot à 3 points, mais il les met.
En fait, ça, c'est la grosse question presque. C'est sa sélection de tir, dans le sens où tu l'as dit. Ouais, il en prend que 2,5 par match ou un truc comme ça. Et en effet, il est quand même à 38%, mais en NBA, ce sera peut-être pas suffisant. Il est trop sur le mi-distance. Et quand il va au cercle, parce qu'il y arrive très bien, bizarrement, je crois qu'il n'a que 3,5 lancers francs par match parce qu'il ne va pas les gratter. Ouais. Souvent, il tire un petit peu en arrière et il évite un peu les contacts parce que pas très physique. Et du coup, c'est que des questionnements en NBA de est-ce que tu peux scorer en étant un spécialiste de mi-distance et un driver qui, parfois, a des finitions un peu trop académique, j'ai envie de dire, parce qu'il a
exactement.
Pas non plus.
C'est marrant que tu sais à quoi j'étais en train de penser, parce que je cherchais cette comparaison. C'est exactement ça. C'est un peu cet élève, c'est pour ça que le truc académique ou scolaire. En fait, tu vas avoir cet élève qui fait tout bien sur le papier, qui est très scolaire, c'est propre. Mais bizarrement, tu vas avoir le côté du genre, ouais, mais à la draft, hein, surtout, par exemple, je reprends cette prise d'église. Je suis pick 7, il est disponible, mais il y a aussi par Michael Brown, des mecs comme ça. C'est peut-être con, hein, mais je vais me dire, ah, je prends l'upside, ou je prends le mec qui a le petit truc, la petite étincelle, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est Michael Ney, mais si ça se trouve, en fait, Kingston Family, c'est Jeff Teague.
Ouais.
Et en fait, en 7, j'ai drafté Jeff Teague, parce qu'il n'y a pas de monde.
Sans
je
les
crois,
podcasts, hein.
Voilà, mais je crois, et l'humour, mais je crois que Flemings n'a pas ce truc de superstar.
Ouais, je suis aligné avec toi.
Je parle pas de même star, ça, superstar. Ouais, ouais. Alors qu'il y a un monde où des Acuff ou des Michael Brown, c'est de la superstar.
Ouais, dur à analyser forcément avant la draft pour un gars en plus qui devrait partir dans le top 10. Donc on sait jamais s'il se développe très très bien. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, dans le pool de 4-5, c'est pas mon profil préféré. Mais encore une fois, je crois que Bastien l'aime beaucoup. Donc
en fait, moi,
j'aurais des avis différents d'autres
fois. C'est comme si tu choisissais de pas relancer à. Comment ça s'appelle le jeu télé là qui veut... Tu sais, quand on te dit.
Apprendre à laisser.
Voilà. C'est le choix safe. C'est... J'ai gagné 10.
C'est l'appel
du
banquier. C'est le premier. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et voilà. Du coup, y aurait plein d'autres noms. Moi, je pense notamment, il y a des joueurs que j'aime bien. Il y a Cameron Carr parce qu'il met des gros dunks et que c'est l'arrière un peu dunker de cette QV.
Le soir de la draft, moi, je vais bien vous saouler avec Bennett Stiertz.
Ah oui, tu voulais parler de Bennett Stiertz. Non, mais tu avais préparé la petite photo.
Non, mais je l'ai enlevé parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Mais promis, je vous en parlerai avant cette draft. Mais très, très joueur très intéressant. Comme vous le voyez quand même, on est sur une QV qui est annoncée comme très deep, très.
Oui, parce
très
qu'on pourrait en faire encore 2 heures. Hein.
Ouais, clairement. Que je pense à des franchises comme les Clippers, quand le pick 5, ils savent pas vraiment quoi faire. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils vont trade down parce qu'en fait, avoir 2 choix dans les 15 de cette draft, c'est peut-être mieux.
Ouais. Et il y a des Oklahoma a 2 choix. Là, c'est ça. Oklahoma a 2 choix, 10-14, je crois, un truc comme ça. Les
12,
Hornets,
18, il me semble.
Ouais, les Hornets sont aussi un espèce de combo
13-17. Ouais. Mais surtout, il y a les.
Vous êtes pas mal, hein. 4-15, ouais. Tu 4-15, peux faire. Il y a des équipes qui vont se mettre bien. Là-dedans.
Les Grizzlies aussi sont 3-16, quelque chose comme ça. Donc, ouais.
T'as tout à fait. T'as un monde où les Hornets, ils se font Stiertz et Lenderberg, par exemple, tu vois.
Ouais, clairement. Non.
Par exemple, hein, t'as des combinaisons comme ça. Bon, voilà. Pour finir, Robin, alors là, on est dans le. Non, on n'est pas encore dans le bonus de la vidéo. On est à 1h02. Donc là, ça va. On peut dire que cette vidéo va faire 1h05 en parlant des prospects. Tu veux qui au Bulls? Voilà, question simple, carré. T'es en 4. Tu veux qui? Tu veux Peterson?
Alors, je serais content avec ce qui est logique. Wilson, vraiment, je serais son premier soutien, tout va bien. Mais c'est vrai que s'il est pris dans le top 3 et que c'est Boozer ou Peterson qui glisse chez moi, je suis encore plus heureux.
Okay.
Mais sinon, si ça arrive en 4 et j'ai pas envie de prendre. Ils sont trop excitants, ces meneurs de jeu. J'ai pas envie de faire une bêtise. Caleb Wilson, c'est pas Patrick Williams, hein, c'est beaucoup plus agressif. Day One, c'est extraordinaire.
C'est vrai que vous avez drafté Patrick Williams en 4.
Non, c'est pas la même chose. Hein. Même malgré, on l'a dit, le plancher qui est pas forcément très élevé, j'ai beaucoup, beaucoup plus confiance. Mais voilà, si Peterson ou Boozer glisse, je suis le plus heureux des hommes. Et toi, avec les Kings en 7, du coup?
Moi, j'aimerais bien que la draft se déroule de façon où les Kings ont le privilège de devoir choisir entre Acuff et Brown.
Ouais.
Quitte à devoir passer sur Wagler parce que j'aime beaucoup, mais les Kings sont un meneur de jeu, donc j'imagine, vas-y, les Clippers, mais ça faudrait un alignement. En fait, les Clippers font autre chose, tu vois, j'en sais rien.
Mara, Flip.
Voilà, les Nets prennent Wagler par exemple, et puis t'as le choix. Mais du coup, si je devais en choisir qu'un, peut-être Acuff quand même.
Ok.
Parce qu'en
très
gros.
Kings.
Ouais, mais raisonnement est nul. En fait, comment dire, on peut le voir, t'as trois Kings. T'as le truc le plus kiffant, c'est Ekuff. Le truc le plus risqué, mais du coup peut-être trop Kings, c'est Brown.
Oui.
Et le truc trop safe, et donc pas Kings,
Flemings.
C'est Flemings. Après, il y a aussi. Alors, après, il y a un truc encore plus king, c'est d'envoyer tout ça chier et de prendre Vagler s'il est dispo. Tu sais que si Vagler est dispo, j'hésite très, 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 très fort.
Ouais, je comprends. Mais je pense pas qu'il sera là, moi. À quoi qu'en 7, si c'est possible. Si, si, c'est possible.
Et du coup, bon, et du coup, j'écarte. Parce que c'est trop compliqué, j'ai pas envie de me faire des nœuds dans le cerveau, j'en ai déjà. Donc, je m'écarte Vagler du truc. Et je me dis que bizarrement, en faisant Brown, Ekuff, Flemings, Ekuff devient presque le choix, safe. Non pas safe, mais du milieu. La voie du milieu. Moi, je traite la voie du milieu.
Bien sûr. 9-3 quarts.
Tu vois? Et du coup, je prends Ekuff. Parce que j'ai l'impression que c'est. Voilà. En plus, je le sais, parce que je ne vais pas le cacher. Les Kings étaient très chauds avant la draft. Essayer d'être 5. Enfin, espérer rester 5 pour ne pas avoir de dilemme et prendre Ekuff. Qui est quand même celui qui a annoncé après le temps. Avec Brown. Mais c'est quand même le gros monstre. C'est le ça aux États-Unis. Il a fait parler de lui. Il y a des comparaisons avec Iverson. C'est son mentor, machin.
En termes d'identité,
il y a
ce qu'il ressort.
Là où Flemings n'est pas forcément une star. Je ne trouve pas comme ça. Et Ekuff, il y a des gens qui te disent, tu traînes sur les forums et tout, qui te disent non, mais vous comprenez pas. Brunson à côté, c'est le fils de Rick Brunson en fait. C'est calmé, tu vois. C'est genre, il est. Il y a des fans. Il a déjà. D'ailleurs, ça va peut-être me saouler un peu. Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu transfères pour James Harden, t'as les mecs qui viennent avec.
Ah oui, c'est pas. C'est des fans, je sais pas comment on appelle ça.
Mais il fait partie de ce genre de joueurs.
Ouais, ok.
Alors j'ai dit James Harden, bah, ça pourrait être. Tu fais pareil avec Durant, tu fais pareil avec.
Par
non, mais même la Melo Ball, même ces joueurs un peu très forts.
Oui, très suivis, quoi.
Voilà, très suivis, très star, etc.
Ouais, je suis d'accord. Et ouais, tu voulais qu'on fasse un clap.
on fait un clap.
La vidéo des prospects est terminée.
Excusez-nous, voilà, on s'est dit 45 minutes, ce qui veut dire 1h05. Et là,
c'est
du coup,
long, trop long,
on vous propose en bonus. Donc ceux qui en ont rien à faire, restez quand même.
Vous allez se dégager, faire ce que vous voulez.
Et donc
quoi,
là, on va tourner avec Robin dans la foulée de la vidéo un 8 passes de 7 heures. Non, pas du tout. On voulait parler de foot. En fait.
Bah ouais, on s'est dit, écoute, il y a eu le match de l'équipe de France hier. On sait qu'il y en a qui ont rien à faire du foot.
C'est
merci,
très imprudent
merci
ce qu'on
nous
fait.
A suivi.
Donc, dites-nous clairement.
Alex et Bastien seront peut-être énervés par
voilà,
cette prise d'initiative.
Dites-nous en commentaire en majuscule. Non, mais cassez-vous, le SoFoot, la tocard, machin. On n'est pas là pour ça.
Mais il y a eu un match d'équipe de France de Coupe du Monde hier soir.
Ouais, on s'est dit, vas-y, 5 minutes là, on en parle deux secondes.
En 5 minutes, vraiment.
Donc, bienvenue dans cet apéro game premier match de bleu.
Quelle première mi-temps.
Comment on pourrait titrer cette vidéo
en deux visages.
Des bleus à deux visages, du coq à l'âme.
Oh, waouh.
C'est du parisien.
Ah, j'ai pas vu.
Mais tu sais que ça veut rien dire du coq à l'âme. Parce que même moi, je me suis dit, le titre est joli, mais ça, c'est quoi le sens derrière du coq à l'âme?
Ouais.
J'ai vu en bandeau, après le match, j'ai vu les Champs-Élysées.
Ah, bien. Ouais,
je crois, Bean, je crois, voilà.
Ok. Ah, ils sont forts, ces gens-là.
T'as vu le match en entier?
Oui.
Condition du match, c'était où? T'étais quoi?
Condition très bizarre, en plus, qui me ressemble pas.
Oui, c'est vrai.
Je me suis dit, pour une fois, je vais prendre le risque, je le ferai pas en 16e, en 8e, etc. J'avais un entraînement de basket, j'y étais, je suis rentré dans le gymnase, j'ai crié, je ne veux pas être spoilé.
Mais à quelle heure,
plaît.
Du coup, l'entraînement?
20h30 jusqu'à
22h30.
Et le
match démarre, j'ai déjà plus 21h, non?
21h. Du coup, je rentre chez moi, ça venait de finir, incroyable, dans le bus et tout, j'étais écouteur, mode avion, je répondais à personne.
Ne parlez pas!
J'avais juste le Twitter de
Paris. À Paris, en même temps, c'est simple, t'as pas besoin de demander aux gens de pas parler dans les transports.
J'avais le Twitter de Shams au cas où il y avait une bombe pour pas parce que j'étais censé pour travailler au cas où mais voilà du coup je suis rentré à 22h30
si Jalis débarque
j'ai regardé seul à 22h30 à minuit 30 sans être spoilé donc
en condition live
seul aucune
idée
le
match
magnifique
donc,
qu'est-ce que je me suis fait chier en premier
voilà donc dans l'ordre t'as vu tous les contrôles ratés d'Mbappé le fait que le match de Dembélé aurait pu être sauvé parce qu'il y a eu quand même une voire deux très belles passes qui peuvent être des buts mais l'approximation globale de tout le schéma en fait.
Oui, c'est ça. Et puis même des joueurs qui savent pas. Enfin, c'est bizarre. T'as l'impression que Olise était derrière Koundé à droite, que Dembélé, il savait pas trop où se placer. T'avais Rabiot qui surnageait au milieu, mais parfois Tchouaméni qui se faisait un peu bouffer. Oh, sur Rabiot déjà.
Si,
mais temps, ça allait.
Problème de. En fait, deux gros problèmes tout de suite. Là. Deschamps s'est trompé à la fois. Pas dans le schéma, mais dans le placement des hommes. Enfin, il s'est trompé. Ouais. Il a tenté. C'est dur. Personne n'avait la bonne compo. Et de toute façon, tout le jeu là depuis 15 jours, c'était comment on fait. Et encore la blessure de Etiquette a simplifié les trucs. Il a opté pour Dembélé un 4-5-1 mais qui n'en est pas un 4-2-3-1 on va dire 4-2-3, mais qui n'en est pas vraiment un non plus un 4 mecs à plat qui défendent qui sont en fait eux-mêmes qui n'ont pas d'espace devant eux. Pourquoi? Parce que tu as deux milieux défensifs à plat. Alors Tchouaméni redescend un tout petit peu plus.
Tchouaméni il allait vraiment même en poste
mais
de défenseur central
sur la relance. Mais qui de coup se retrouve très loin du numéro 9 et qui sont tes deux seuls vrais milieux de terrain purs. Un attaquant de soutien Dembélé plus qu'un meneur de jeu parce que Mbappé veut jouer dans l'axe et que Dembélé maintenant joue dans l'axe aussi. Et finalement deux joueurs qui sont des milieux excentrés un peu ailiers mais qui dans les faits se retrouvent loin des autres.
Ouais, et puis tu le vois
seul. Et il y avait pas de, il y avait pas, et cette animation, ça demande beaucoup de complicité avec les latéraux, zéro, zéro. Les ouais. latéraux du lâcher, les deux. Oh mais là vraiment, là, mais moi je trouve les latéraux.
Le pauvre Koundé, il a fait un nombre de montées énorme en première mi-temps, mais il jouait tous ses ballons derrière.
Ouais, mais
compliqué.
Le schéma était pas bon pour lui non plus, tout ça et tout.
Ouais, Lucas, c'est Lucas, non, c'est Théo.
Donc une
Théo,
première mi-temps où
compliqué.
Tu te dis, y a rien qui va. Est-ce qu'on va se retraverser, y a un premier tour de l'angoisse, machin. Entre temps, le Sénégal a des occasions qui viennent. Le Sénégal ouais. m'a déçu aussi. D'ailleurs, pour pelouse pourrite, approximation technique et tout, je pense que ça a joué aussi.
Ismail Assar face jeu. Au but, il en a une ou deux en première mi-temps. Merci.
Jackson
merci
tape le poteau.
Côté. Ouais, Jackson tape le poteau. On
et
a
en
de
fait,
la chance,
à la mi-temps, franchement, c'est même limite cool qu'il n'y ait pas un 0 Sénégal.
Il doit y avoir un 0 Sénégal. T'as de la chance avec ça, le talent, ça le
peut.
Talent de Mike Maignan.
Après,
qui
il peut y avoir un
0
France aussi. Si Mbappé, il y a une ou deux. Mbappé, il contrôle bien la première au final de pigeon. Ouais. Ou même la passe est un poil plus tôt, enfin, ou plus long, un tout petit peu plus longue. Il a pas, il la contrôle de la cuisse, il l'emmène, il y a
mais
un zéro.
C'est ça qui m'a étonné, moi, avec les 4 de devant qui a autant d'approximations techniques, j'étais vraiment.
Ouais, mais en fait, ils se marchaient dessus,
bizarre,
tout ça
ouais.
et tout.
Et la deuxième mi-temps.
Attends, et le gros problème, parce qu'il y avait un deuxième problème, la France défendait à ce moment-là en 4-4-2. Mm. C'est-à-dire que Mbappé et Dembélé, alors a priori plutôt Mbappé, formaient deux, j'allais dire, première ligne défensive, mais gentille la ligne. Mm-hmm. Vraiment.
Hein. Oui, oui, non, très.
Se placer plus qu'autre chose, mais pour empêcher, entre guillemets. La première en fait, le but c'est de couper une ligne de passe tout de suite de centrale à tout de suite un ailier adverse. Mm-hmm. Pas qu'il y ait, tu vois, que Koulibaly puisse pas avoir tout de suite une passe comme aux échecs, la diagonale du fou et trouver tout de suite ça. Donc coupez-moi ce truc là. Et deux lignes de 4. Mm-hmm. Mais du coup, Doué, hyper bas, parce qu'à fermer, et Olysée aussi. Et en deuxième mi-temps, je te rejoins parce que c'est hyper important. Deschamps prend une. T'as l'impression qu'il prend qu'une décision, mais en fait, il prend une décision.
Tout.
Il replace Olysée à la place de Dembélé, mais il choisit aussi de faire. C'est plus vraiment un 4-2-3-1, enfin c'est presque un 4-3-3 avec Olysée assumé meneur de jeu. Mmh. Vraiment 10. Olysée joue vraiment 10.
Ouais, bien sûr.
Deux milieux défensifs, mais du coup dont le rôle est clair et doivent en fait tout le temps. C'est facile hein, mais t'as un aveugle, il a un chien, t'as un 10 et t'as les deux mecs en fait, ils doivent le suivre, c'est tout, c'est leur rôle. Mais les deux, tu vois, au moins un des deux et l'autre en. Donc les rôles beaucoup mieux. Vraiment, moi je trouve une articulation à trois milieux et des ailiers. Dembélé à droite, qui est à gauche. Qui du coup. Et Mbappé en pointe. Et du coup, défensivement, bah là, t'avais plus une défense en 4-3-3, voire 4-5-1, mais avec vraiment Mbappé qui défend pas, mais qui est au milieu, qui fait chez personne. Mmh. Cette zone-là, en fait, pour Dembélé et Doué. Et ensuite, je crois qu'il passe Doué, passe là, et Barcola rentre à gauche. Et vraiment, c'est leur bonne zone à défendre parce qu'en fait, ils jouent plus haut. Et on oublie souvent au foot que jouer plus haut, parfois, c'est défendre plus haut. Mais je pense que Doué, il préfère défendre plus haut, quitte à défendre, parce qu'il dit si je la gratte ou machin, je suis déjà dans les 30 mètres adverses. Que cette espèce de 4-5-1 où tu défends en zone et tout. Après, et surtout, bah, Olysée dans l'axe.
Ouais.
Vrai numéro 10. Et là, en une mi-temps, on s'est dit, bah, en fait, on va gagner la Coupe du Monde.
Est-ce qui a même plus permis, à côté de ça, à Mbappé un peu de se retrouver dans les meilleures zones. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu en 10, un peu reculé et tout, comme il le faisait en première mi-temps, là, il prenait plus les espaces. Et quand il faisait des 1 contre 1, ça partait de la droite, où il est toujours très à l'aise, où il arrive à dépasser ses adversaires 4 fois sur 3. Assez exceptionnel. Tu parles de Désiré Doué, justement, lui, il a quand même moins de problèmes. Parfois, on l'a vu avec Paris, à redescendre un peu plus bas, mais il avait aussi plus de liberté sur son couloir gauche.
Ouais.
Donc, un petit peu plus agressif.
Et puis vraiment, cette diagonale qui s'est dégagée pour les deux extérieurs parce que on le voyait, il n'y avait plus les décrochages d'Olysée. Il se marchait, il y avait un embouteillage à Mbappé, Olysée, Dembélé en fait.
Et puis, si tu joues avec 4 attaquants, t'as envie qu'ils prennent des risques. Il y a eu plus de prises de risques en seconde mi-temps, ce qui se voit notamment dans les passes de Olysée et de Rabiot sur les deux buts, qui sont vraiment pas évidentes à donner et qui sont parfaitement dans le ton. Doit y avoir aussi un penalty sur Mbappé. Je comprends pas, je comprends toujours pas aujourd'hui que ce soit pas sifflé. Ah si.
C'est pas le plus indiscutable. Il y a Pedro, normalement tu le sifflerais pas.
Et ça touche la jambe. Ah si. Ah bon, c'est 100% péno, je comprends pas pourquoi ça l'est pas. Et c'est pas un truc de franco-français, ouais, c'est
non,
juste.
Non, alors l'arbitre s'est trompé
avec
au
la
début,
VAR.
Je pense qu'au début, il pense. D'ailleurs, moi aussi, au début, je pense qu'il y a corner parce que je pense que le mec touche la balle et Mbappé. Donc déjà, tu dis, bon, au moins il touche la balle. Au ralenti, tu te rends compte qu'il a pas touché la balle, mais plus tu le vois le ralenti, plus tu vois quand même que oui, Mbappé peut passer. Le problème, c'est qu'en fait, Mbappé, je pense que c'est le seul truc, si l'arbitre, on l'avait avec nous pour justifier, tu peux estimer qu'au moment de la faute, parce qu'il y a une faute, en fait, Mbappé a plus le contrôle de la balle, elle est trop loin, elle sort. C'est peut-être le seul truc. C'est-à-dire que même si Mbappé. Et encore,
il
Mbappé va tellement
tac,
vite
quoi,
que si ça se trouve, la balle est en train. Ouais. Elle est un peu loin. Bon, je sais pas, je fais l'avocat du diable, on s'en fout. Pour aller vite et finir cette section de trash foot ou saut talk ou saut machin.
T'as très bonne deuxième mi-temps qui donne des espoirs. Il y a des choses.
Ouais, mais un peu en trompe-l'œil, parce qu'en fait, le but d'Mbappé, c'est à la fin, toute fin de match.
Ouais.
Et juste avant, il y a un mini frisson parce que t'es à 2-0. Enfin, en gros, t'as ouverture
c'est
du score.
C'est mignon.
Ouais, quand le Sénégal marque, tu sais que du coup, tu dis merde. Parce qu'à 2-0, c'est genre on est pépouze.
Ah, tranquille.
Et tu te dis, ah mince, ils ont marqué. En fait, il reste 7 minutes, je crois, à ce moment-là. Ouais. Et tu te dis, merde, ce serait con que.
Mais d'ailleurs, la frappe de Kylian.
C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a encore des problèmes. Ouais, la frappe de bah, Kylian Mbappé, pour dire, première mi-temps où il rate des trucs simples, entre guillemets, pour lui. Mais c'est ça, les grands joueurs. Il fait penser à Cristiano Ronaldo pour ça.
C'est ça, compète. C'est ça, compète.
Il va avoir 4 trucs, il va rentrer 3, les trucs plus simples. Et le 4ème, le plus compliqué. Ou le... En fait, il va inventer quelque chose.
Incroyable.
Que c'est l'un des seuls mecs au monde capable de faire. C'est-à-dire que la prise de balle, l'enchaînement, je me retourne, je place bien mes appuis pour que soit. Pour en fait que la prise de balle se transforme en prise d'élan pour une frappe, et puis cette espèce de cloche là, enfin de frappe.
Ouais, et puis elle se déporte.
Ouais, bah
gauche.
Elle est bombée, elle est un peu brossée, mais du coup elle passe au-dessus.
Mais tu me demandais comment je l'avais vécu, ouais. Du coup, moi ce qui était jouissif, c'est que en le regardant après, bah après j'ai pu remonter Twitter et je voyais la gueule de la timeline du début de match où il se fait défoncer la gueule.
Ah, mais Mbappé,
t'avais
la France
entière,
c'était déjà Mbappon et tout, on y allait, tout le monde y allait franco.
Ouais, je te redis, c'est sa compète, laissons-le sur ce terrain.
Mais le truc, c'est que les grands joueurs, en tout cas lui et Ronaldo, Messi, c'est un poil différent parce que je trouve, bon, c'est un autre débat. Mais tu vois, on en voit plein des mecs comme ça. Ils vont te rater des trucs qui ont entre guillemets l'air facile pour eux, donc ils vont te frustrer. Et en fait, derrière le truc un peu difficile, ils vont le mettre. Et t'as même un truc exceptionnel où en fait, c'est même pas une occasion, où c'est un début de truc. Zlatan avait un peu ça aussi, mais Mbappé, il le pousse. Moi, je trouve qu'avec Ronaldo, et c'est pour ça qu'en foot de club, c'est très très haut. Parce que là, on lit Mbappé, meilleur buteur d'histoire de France. Et lui et Messi sont en train de se faire une course. Les deux vont sans doute finir.
Messi a déjà rejoint Klose.
Ouais, et puis l'autre il va le rejoindre, il a deux buts, Kylian. Bon, on va voir. T'as l'impression quand même qu'on va croiser. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la France et l'Argentine, là, on va encore. Je dis pas en finale, peut-être pas, mais. J'ai pas le même
si
jour le fait que Mbappé mette ses buts. T'as l'impression de dire putain, on va se retrouver.
Il y a un long chemin avant ça quand même. Mais
c'était que le premier match.
Ouais, dernière question, du coup, toi, tu ferais quoi là pour la suite, deuxième match, troisième match? Est-ce que t'as un changement?
4-2-3-1, mais avec ce côté 4-2-1, moi j'assume. Écoute, moi je vais finir là-dessus. La prise de pouvoir, je pense qu'on reparlera du moment tous où c'est dit la deuxième mi-temps de Lille, le premier match de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal, où en fait tout de suite il prend le pouvoir.
Ah ouais, c'est
tout le monde rêve d'être numéro 10.
C'est le leader technique.
Ou numéro 9, on va dire, mais de genre, en fait, le jeu tourne autour de moi. Voilà, je cherche mes mots, le jeu. Et j'ai rarement vu en équipe de France une prise de pouvoir comme ça en premier match de Coupe du Monde.
Je suis d'accord. Mais ouais, moi, le petit changement, tu parlais
de. Il a obligé Deschamps à lui dire, en fait, Coco, tu fais c'est pas un 4-2-5-1 hybride avec des trucs chelous de 2-9,5 là, Mbappé. C'est, je suis un putain de 10, tu me mets moi, et Dembélé, tout ballon d'or qu'il est. Il va courir à droite.
Ah, je suis complètement d'accord. Et sur les latéraux, il y a des questions qui se posent. T'avais raison. Ouais, je sais pas si je tenterais pas. Enfin, Digne, il me semble presque souvent plus régulier que Théo.
Non, moi je les garde. Je les garde parce que je pense que dans le schéma. Bah,
Zaïre Emery à droite, c'est moi. Je serais curieux.
Alors,
il a fait un Zaïre
Emery
à Paris.
À droite, c'est tentant, mais pas tout de suite parce que tu grilles. Non, moi je. En faisant ce 4-2, ce 4-3-3 là, si t'as vraiment Mbappé qui est comme ça, qui vient Olise en 10, je pense que là, du coup, Olise va venir. Il va aussi trouver, là il a pas pu le faire et tout, mais lui il va pouvoir trouver un peu planqué façon foot américain, quarterback, entre ces deux milieux défensifs justement. Il va trouver, je suis sûr que le prochain match il y a une balle où c'est renversement de jeu parce que ça a fixé à gauche. Comment il s'appelle déjà ? Koundé, il a pris tout le couloir droit parce que par exemple Dembélé est rentré et qu'en fait il y a un but parce que Lise ou même tu vois, ça s'est ouvert, il y a la diagonale et centre rentrée, but. Tu verras.
Oui, non, mais ça, je peux l'entendre, mais
c'est l'utilisation
du
schéma qui a fait
que
les latéraux ont été hyper, hyper nuls en premier temps aussi. Ils étaient coincés.
En deuxième aussi. Hein.
Mais c'est pas les meilleurs latéraux du monde, mais je pense que ça fait le job et qu'il y a pas. C'est comment dire, c'est pas assez scandaleux pour en mettre un sur le banc. Dernière remarque que je me suis faite pendant le match et là pour finir. En plus, le trio que je trouve très important au foot, tes deux centraux.
Incroyable,
gardien.
Incroyable. Ah, pas le gardien. Enfin, les centraux, magnifiques.
Maignan, ça va.
Bah, le but il est compliqué, ouais, les relances c'est compliqué quand même,
mais je veux dire l'association
lui au global,
non,
mais hier c'était dur.
Upamecano là il fait un match, il m'a empêché de monter dans le bus encore. Je lui dis arrête, le match est fini, calme-toi, laisse-moi tranquille.
Même là il y a un retour, un tag de Saliba qui est exceptionnel. Saliba, j'aime bien Meignan en général, mais hier c'est compliqué.
Ouais, mais je pense quand même que c'est un bon goal.
Je suis d'accord. Et même sur l'essence de pénalty.
Et de
coupe
tout
du
ce
monde,
que j'ai
magnifique.
Vu de la Coupe du Monde, c'est que je me suis dit que le trio là, le triangle gardien des deux centraux.
Ouais, ça va.
Bah on est bien lotis.
Clairement.
Et si il a trouvé la bonne formule des champs et que le milieu, voilà, on verra. Écoutez, on arrête là parce que vous voyez que on a fait quoi ?
1h16, 18.
Ouais, on a fait 15 minutes de foot.
On a un peu abusé.
Vous pouvez complètement dégueuler en commentaire si ça vous a pas plu. Oui, on a pris des libertés.
Demain, on retrouvera les deux patrons pour une mock draft. Donc un peu plus long pour recentrer. Évidemment, la grosse annonce à retenir maintenant. La draft de mardi prochain sera commentée ici même sur Trash Talk à partir d'1h30 du matin. Je crois qu'on on est parti pour toute la nuit. On se verra de 1h30 à 5-6h potentiellement. Donc,
ça va être, Robert, ça va être n'importe quoi.
Prenez bien les popcorn. Ceux qui pourront nous suivre un mardi soir de 1h30 à 6h, vous êtes des passionnés, c'est magnifique. On sera là entre kiffeurs. C'est ça. Et on vous embrasse très fort. On espère que ça vous a plu.
Prenez soin
au moins
de vous.
La vie, au moins la partie sur les profils.
Faites gaffe à la chaleur.
Ouais.
Profiter un peu du mondial quand même.
Ouais.
Pour ceux qui. Voilà. C'est quand même cool, une Coupe du Monde. Et puis voilà. Clair. Et puis des bisous.
C'est clair. À très vite, tout le monde. Je ne trouve pas le bouton end. C'est là. Salut tout le monde.